Donc, je vais commencer en vous demandant depuis combien de temps vous habitez Orléans.
Orléans depuis 1980, ça fait 30 ans.
D'accord. Et avant, vous étiez.
Avant Châteauneuf-sur-Loire, 1 an. Avant en Bourgogne, 2 ans. Et avant 2 ans, itinérant un peu entre la Bourgogne et les Alpes. J'étais déjà dans le spectacle.
D'accord.
Et avant, j'ai pas vécu loin, parce que j'ai vécu à Pithiviers jusqu'à 17 ans, on va dire, 17-18 ans, tant que je parte à Paris.
Donc vous êtes originaire en fait de la région centre.
Ouais, bah oui, région centre, ouais. Fils d'immigrés, voilà. Mais bon, c'est assez. Par hasard, en fait, mon père s'installe à Pithiviers. Il a rencontré ma mère, par hasard, à Pithiviers. Et alors qu'en fait, mon grand-père avait vécu à Orléans avant la guerre. Quand il a immigré de Pologne, puisqu'on est polonais, et il est arrivé sur la commune. Il a fini au bout d'un an ou 2 ans, il s'est regroupé. Il y avait une grosse communauté polonaise sur Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il y en a quasiment plus quoi, maintenant. On est tous intégrés, on va dire. Voilà. Et puis c'est marrant, je me suis retrouvé en fait à Orléans, le hasard le plus total.
Revenu, c'était un peu un retour aux sources.
Ouais, disons parce que comme je connaissais des gens sur Orléans, on voulait quitter la Bourgogne qui était trop le désert culturel. Pour travailler, c'était vraiment beaucoup de kilomètres. C'était vraiment le désert. Aujourd'hui, il y a plus de choses, mais il n'y avait même pas de MJC. Enfin, il y avait beaucoup de petits endroits pour travailler, les foyers ruraux, tout ça. Donc on voulait revenir sur une ville. Et comme je connaissais des gens ici, ils m'ont dit, tiens, sur Orléans, il y a moins de se loger, donc pouf, on est venu là.
D'accord. Donc là, en fait, le 108 rue de Bourgogne, c'est votre lieu de travail, mais.
Ouais, c'est le bureau ici. On a le bureau ici, on a le théâtre au Parc Pasteur, et puis on a des locaux de fabrication d'entrepôts et tout, sur Chevilly. Et ici, c'est spécial parce qu'on est rentré ici il y a un peu plus de 10 ans. Mais depuis 3 ans, on a vraiment monté un collectif pour gérer toute la maison. On gère toute la maison Bourgogne de façon collective. On a une association qui s'appelle le 108, qui regroupe toutes les associations du bâtiment. C'est que des assos professionnels, c'est-à-dire où vous avez des salariés. Et ça couvre à peu près tous les arts. Il y a de la danse, il y a du numérique, il y a du multimédia, il y a la beau-média. Il y a nous, bon, il y a de la marionnette, du théâtre, de la danse, oui. La musique.
Ah oui, je savais pas que toutes les associations étaient gérées par vous, en fait.
Ben, c'est le bâtiment, en fait. On a eu les clés du bâtiment. D'un côté, c'est très libéral. Et en même temps, c'est plus une culture de gauche. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon. Et le même projet ne passait pas quand on avait Jean-Pierre Sueur. Et quand Serge Grouard est arrivé, tout de suite, il a dit, bon, présentez-moi, comme il fait à chaque fois. Présentez-moi votre projet, oui, on va faire une étude, oui, c'est viable. Tout ça lui coûte moins cher que c'est les services de la ville. Il y a 4000 mètres carrés le bâtiment, hein, c'est énorme.
Ouais.
Et ouais, on a créé 3 emplois, gardien, animatrice, on va dire, du lieu, puis un directeur qui gère le bâtiment. C'est pas évident, mais bon, là, on est dans notre 3e année, pour l'instant, ça se passe bien.
Oui, donc comme quoi, les mairies de droite ne sont pas forcément.
Oui, là, c'est une liste de bons. Je pense que la conjoncture est bien. En plus, c'est vraiment une asso qui gère ça. Moi, je suis au conseil d'administration. Et il y a la seule obligation, si on est dans le bâtiment, on ne peut rentrer qu'avec accord du conseil d'administration, mais aussi accord de la ville. Et on a impliqué la ville, et ça, ils ont bien suivi. Là, maintenant, c'est le service culture. Ils participent vraiment sur toutes les questions qu'on se pose ici. Donc c'est quand même. Et ensuite, on demande à chaque résident de participer à une commission par an. Il y a plein de commissions, genre théâtre vivant, spectacle, danse, machin. Il y a des trucs plus techniques sur le métier, comme quelles sont les nouvelles formes d'emploi, patati patato, bon, pour les administratifs, pour les créateurs. Et ça fait maxi 4 réunions par an, donc c'est pas beaucoup demandé, mais les gens, quand même, ça participe bien, je trouve. Tous nos collègues là, puisque.
Donc ça anime un petit peu cette partie de la rue de Bourgogne, peut-être, qui est moins
Ah oui.
animée que.
Et puis on a gardé la ZELCO, par exemple, l'assistance sociale, on travaille avec eux. On a vraiment une partie. Bon, ça commence à prendre. Je ne dis pas encore que c'est parfait. Mais dans un système entre l'autogestion et puis le projet collectif, c'est suffisamment utopique, mais pas trop quand même. Donc c'est gérable. Et avec une ville qui n'est pas... on aurait, demain ce serait les socialistes, on ne les voit pas plus ici, hein, les élus de l'opposition. Parce que la culture, c'est toujours le dernier truc. C'est toujours au bout, qu'au bout des trucs.
Oui, surtout en ce moment, là, on voit que c'est des coupures de partout. Oui,
coupures de partout, mais ils sont complètement crétins, parce que c'est une source d'emploi énorme, la culture. Énorme. Énorme. On le sait depuis 2003, parce qu'en 2003, on a eu les grandes grèves, Avignon annulé. Là, du coup, ils étaient obligés de cracher le morceau, les vrais chiffres, et on sait qu'on est juste derrière l'industrie automobile.
Ah, c'est
bon. Ben oui, parce qu'il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a la télévision. Il y a les enjeux derrière, l'argent et tout. Maintenant, c'est mondial. Et en France, il y a quand même beaucoup de talents, je veux dire, au niveau des artistes, des créateurs. Il n'y a rien à dire. Hein.
Ouais.
Voilà, voilà.
Donc là, on parlait du 108, mais en fait, votre adresse est dans une Venelle, c'est ça?
Ah oui, mon adresse personnelle, j'habite Venelle de Écubé-les-Bas, qui est une petite rue qui est derrière une manufacture, alors qui n'est plus manufacture, qui est maintenant la DRAC, qui n'est pas très loin, qui est à un quart d'heure à pied du centre-ville. Ouais. C'est un ancien quartier de Venelle qui était démoli en partie parce qu'il y a eu la grande rocade. Du quartier, mais là, on est quand même en clave.
Il a un nom particulier, ce quartier là,
qui est... C'est Saint-Marc-Arbonne.
Ah d'accord, ça fait partie du...
Saint-Marc-Arbonne, oui. Donc nous, on est entre l'église et l'église Saint-Marc, en plus, côté de la gendarmerie, quoi, en fait, limite Argonne.
D'accord. Et donc, comme on a dit, quelques questions sur le logement, vous êtes resté... vous êtes arrivé à Orléans, vous êtes resté dans ce logement.
Au début, j'habitais centre-ville, rue d'Illier. Et puis après, on a trouvé une maison là-bas. En fait, on a acheté deux maisons avec ma femme. Deux ruines. Parce qu'il y a
25 ans, ça. Complètement par hasard, parce que les Orléanais, à l'époque, ils allaient plutôt habiter à l'extérieur, dans les pavillons, tout ça. Donc, au centre, il y a des quartiers comme ça, avec des maisons, mais pas chères du tout. Maisons de jardin et tout. Il n'y avait pas de tout à l'égout, il n'y avait pas de toilette dans les maisons. C'était vraiment les vieux quartiers, quoi. Oublié.
D'accord. Et donc, en ce qui concerne, on avait parlé un petit peu là de votre famille, de vos parents. Donc, votre grand-père était, enfin, émigré sur
Orléans. Il s'est installé à Orléans. Mais après, il a perdu sa femme en 37. Et après, il a mis ses trois enfants chez les bonnes sœurs et puis à la Ferté-Saint-Aubin, et est arrivée la guerre, et puis là il y a eu des tas de problèmes, il y a eu les rafles, il y a eu les pas mal de Polonais, du milieu polonais qui ont été embarqués, ceux qui n'étaient pas raflés après c'était travail obligatoire, et mon grand-père lui, il voulait rien entendre parler, donc il a planté ses gamins, il les a laissés dans les internats, et il est parti, il a disparu. Et on l'a retrouvé qu'en 1961.
Ah, aussi longtemps
ouais,
après.
Ouais. Il était déclaré mort pendant la guerre et tout. En fait, il avait complètement disparu. Et il a refait sa vie, mais tout seul. Il vivait tout seul en Bourgogne, dans une ferme. Il s'était déjà tapé. Je lui ai demandé hein, pourquoi. Enfin, il ne m'a pas tout dit, parce que bon, il était très discret sur le passé, mais j'ai retrouvé d'où il venait, son village, tout ça, la famille et tout, parce qu'il avait pas mal. On avait des contacts là-bas avec la Pologne, qui ont disparu quand il est décédé. Mais il s'était fait 14-18, après il s'était fait la Crimée, contre les bolcheviks, comme il disait. Donc lui, c'était pas possible qu'il y ait à nouveau. Que ça recommence et tout. Donc.
Ah, c'est étonnant ça. Donc en fait, les enfants, il y avait quelqu'un pour s'occuper d'eux
ou... Non. Ma tante, elle était chez les bonnes sœurs. Mon père, il était avec son frère à la Ferté-Saint-Aubin au château. C'était un genre d'orphelinat pour enfants réfugiés. Mmh. Et comme les gamins étrangers ont commencé à être ramassés, mon père, il s'est retrouvé en fait chez les franciscains à Poissy, en banlieue parisienne.
donc au monastère. Il a failli devenir franciscain. Et mon oncle, il a été dans un autre couvent, pareil, en fait, planqué par les franciscains. On leur a donné un nom français, un prénom français, puis hop, jusqu'à la libération, quoi.
Oui, donc là, l'église était bien de,
oui,
de ce
oui.
point de vue-là, il n'y a pas eu de
problème. Ah oui, non, de ce côté-là, oui, donc, il y a eu tout un réseau résistant chez les prêtres.
D'accord. Et donc après, votre père est resté sur, dans la région et...
Non, après, il est parti. Il est parti en Afrique. Il a fait son service militaire après la guerre pour être français, comme ça, il a pu devenir français comme ça, à cette occasion. Mais il était là-bas, il était très malade, donc il était rapatrié, il s'installe à Béziers, puis de Béziers, il y a eu du boulot à la sucrerie à Pithiviers, mais il s'est retrouvé à Pithiviers. Et puis voilà. Et là, il a rencontré ma mère qui était orpheline, comme ça. Ouais.
D'accord. Oui, c'est une histoire, intéressante.
Ah oui, c'est une grosse histoire. Et ma mère, pareil, était orpheline chez les bonnes sœurs. Avec elle, une vision beaucoup plus dure des bonnes sœurs. Ouais. Oui, mais elle a gardé les liens. Bon, ma mère est décédée là, il y a 2 ans. Mais. J'ai toujours le contact d'une dame qui a près de 90 ans, qui est une sœur, une mère supérieure à la retraite du côté de Mende, à Mende, là, en Lozère, et qu'en fait, elle a été la mère adoptive de ma mère pendant la guerre, qui s'en est occupée, tout ça, à l'époque, elle avait 19 ans, c'était une bonne sœur.
Bah oui, elle est toute jeune.
Voilà. Et c'est, oui, c'est, et ma mère elle a toujours gardé le contact avec les sœurs, tout en ayant une espèce de truc petit bonne soeur, petit curé, tout en pratiquant. Alors,
c'est...
truc. Mais bon. Alors que mon père, c'était plus dans l'esprit catholique polonais. Puis comme il était tombé dans le bain franciscain, c'était bon. Il était très cool, hein. Le franciscain, c'est très très cool. Comme on était famille bah, ouvrier, donc pauvre et tout ça, il s'est quand même démerdé pour nous mettre à l'école privée. Ce qui est très bien tombé quelque part, parce que moi c'est mes meilleurs souvenirs éducatifs, c'est j'étais à Saint-Grégoire à Pithiviers, et ça c'est mon meilleur souvenir. Et à l'époque il y avait deux personnes qui ont pris après énormément d'importance, y compris dans ma vie, pour des raisons intellectuelles, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y avait Jean-Marie qui était prof de philo quand moi j'étais à l'école primaire. Et il est sur Orléans, je crois. J'ai vu un article sur lui l'autre jour. C'est un prof qui est philosophe et qui était à l'époque bon, prof de philo à Saint-Grégoire. Et avec l'abbé qui s'appelait Jean, qui était le supérieur de l'établissement, ils ont renvoyé leur livret militaire en 66, je crois. Ils ont créé le mouvement, le MAN, le mouvement alternatif non-violent, qui était installé rue Tilly à Orléans. Je l'ai recroisé à Orléans, il est toujours sur Orléans, il n'est plus prêtre. Il avait été prêtre ouvrier après, etc. Ça m'a fait rencontrer, c'est vrai que dans cette génération, là, après, avant 68, puis juste après, parce que j'ai 54, donc en 68 j'avais 12 ans. Il y a eu beaucoup de choses ont changé. La mère supérieure, tout d'un coup, elle est habillée en jean. Ah oui, oui, aujourd'hui on dit ça, on dit, ah, mais pour eux c'était un truc, c'était énorme. Les prêtres, effectivement, ils étaient prêtres ouvriers, ils travaillaient à côté, c'était complètement une autre relation. Il n'y a pas que les prêtres pédophiles, il y a aussi une église de gauche qui se bat, qui s'est toujours battue, sauf qu'il y a rarement la parole en fait.
Ouais, ils étaient peut-être plus ancrés justement dans la vie normale, entre guillemets.
Ah bah, je croise l'autre jour un prêtre là, qui est à côté, que j'ai reconnu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai reconnu d'ailleurs, mais enfin, quoi, des fois il y a des trucs comme ça. Et en fait, il est dans une petite maison de retraite pour prêtre à côté, là. Et c'est l'ancien, c'est un prêtre ouvrier qui était ouvrier chez Gringoire, il était prêtre, et ouvrier à l'usine Gringoire à Pithiviers. Là, il a bientôt 80 ans, il a eu une attaque d'hémiplégie, donc il perd la mémoire. Une fois que je lui dis qui je suis et tout ça, tac! Ça fait des clics après, mais il m'a dit tout de suite, il m'a dit ne t'inquiète pas, dans une demi-heure je t'ai oublié, parce que il dit c'est pas grave. J'ai vu que c'est.
Il y a une génération comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, moi je fréquente pas l'église, ni le milieu catho, donc.
Et concernant votre femme, elle a la même passion que vous pour. Enfin, vous travaillez ensemble
ou... Ah oui. On a démarré un peu ensemble. On s'est connus à Paris, après on a travaillé ensemble, on ne vivait pas ensemble. Et puis ensuite, on a fait la tortue magique, on l'a fait ensemble. Ça.
C'est Annie. Parce que j'ai vu, on a un tableau avec les noms des témoins. Et c'est vrai que quand on voit deux marionnettistes habitant la même venelle, à la même adresse, se dit, tiens, je pense que c'est un de mes collègues qui va le...
On s'est mariés, et ce qui n'était pas un projet de départ. Et on s'est mariés parce qu'on a adopté des gamins. On voulait avoir des gamins, on n'arrivait pas à en avoir. On a adopté deux gamins. Et pour la première, notre fille qui a maintenant 25 ans, quand au bout de... On a eu l'agrément d'AS, tout ça, pas de problème. On ne nous a pas dit « mariez-vous ». Puis dans les textes de communication, dès qu'on a commencé à contacter les associations, ils nous ont dit... la première m'a dit « vous êtes mariés ?» Je dis « non ». Il dit, mais c'est très grave, vous ne pouvez pas adopter. Je dis, c'est pas grave, on va se marier après. Il me dit, monsieur, le projet d'un enfant passe d'abord par le mariage. Ouh là là. Je me suis dit, bon, là, ça devient embêtant. Et au bout de deux, trois comme ça, j'ai dit, bon, pas de problème. Elle aussi, ma femme aussi, elle est de l'Est hongroise. Hein. En plus, elle a vécu là-bas, elle a connu 56 et tout ça, là-bas, avec ses parents. Donc, c'est là qu'ils ont, ils sont revenus en France. Et... il y a un truc qu'on apprend dans le pays de l'Est, une espèce de pragmatisme qui n'est pas du tout comme ici. Au bout de deux fois, il faut marier. Bon, si c'est un truc supplémentaire, on se marie. C'est comme Annie est juive, bon, moi je suis catho-polonais. Quand l'église, parce que notre fille elle vient d'Haïti, là-bas, il nous demande est-ce que vous êtes baptisé ? Là, on se dit, on est dans la merde. Mais bon, je ne me suis pas dégonflé. J'ai contacté l'évêque d'ici, d'Orléans, de l'époque, et quelqu'un qui travaillait à l'évêché et tout a dit, je vais vous faire une lettre circonstanciée pour dire que vous êtes des bons citoyens orléanais, catholiques, machin. Enfin, on balait ça, puis voilà. Parce que sinon, on ne fait rien.
Oui, c'est pas simple.
Hein. Ben, l'adoption, c'est un truc, aujourd'hui, je pense que c'est toujours pareil, hein, c'est difficile.
Donc vous avez une fille et puis...
Une fille d'Haïti, oui, et un garçon qui vient de Pologne.
D'accord.
Ça, on en voir deux, puis bon, c'est dire on va diversifier, donc on a une jeune fille noire, un petit garçon, il fait 1m90, puis blond, blonds yeux bleus, voilà. Et le jour et la nuit, voilà.
Oui, tous les sens du terme.
Ah bah là, dans tous, hein. Elle est bosse, elle finit son Master 2, tout va bien pour elle à Strasbourg. Et puis lui, il est dans un trou, il n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'il a 24 ans aussi. Hein. Bon, il a beaucoup trop dérouillé au départ, pas loin. Donc c'est pas évident, et encore aujourd'hui, là, ça rame. Ça vient, mais bon...
Et au niveau de leur scolarisation, ils étaient dans des établissements publics, privés
Public. Ah ouais. Moi, j'ai proposé le privé, mais je me suis fait envoyer péter par ma femme qui m'a dit... Dans ce cas-là, je dis, mon épouse, non, elle, non. Alors, elle dit, on fait public jusqu'au bout. Bon, c'était bien.
Ils étaient dans quel quartier pour les écoles?
Sarah, elle était à l'Argonne, à Joliot-Curie, le collège qui est fermé maintenant. Je remarque que maintenant, elle le noircit beaucoup. Elle dit oui, tu vois, ils l'ont fermé parce que c'est un collège pourri, collège de quartier. Il y avait des problèmes, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y a 10 ans, il y avait des problèmes, mais minimes. Et mon meilleur exemple, c'est qu'il y a tous les copains qui ont mis leurs gamins là-bas. Je vois les gamins qui ont maintenant 25 ans, ils sont tous trouvés une porte de sortie, hein, normale. Et ceux qui voulaient bosser, ils bossaient, c'est tout. Il y avait une petite proportion un peu qui marchait pas très bien, mais bon, c'était pas... Alors que notre fils, lui, il a un parcours complètement atypique, parce qu'il était handicapé, refus total de l'école, il a mis beaucoup de temps à accepter la réalité, l'extérieur et tout ça.
C'est un gamin qui est resté 3 ans enfermé, de la naissance à l'âge de 3 ans. Enfermé, c'est-à-dire que les gamins dans les maisons pour enfants en Pologne, comme il n'y a pas d'abandon, il y a pas, parce que là il y a le poids de l'église, la société, donc tant de choses sur le même truc, on va pas vous dire, on ne peut pas s'occuper de nos enfants, donc venez les adopter. Il n'y a pas d'enfants adoptables, il n'y a pas d'enfants malheureux. Et c'est un court circonstance qui fait qu'on s'est retrouvé là-bas d'adoption, parce qu'il y avait on a fait des convois de médicaments avec un copain médecin pour l'hôpital pour enfants de Cracovie, puis on a créé des liens, puis on a vu des gamins, puis j'ai dit tiens, vous voulez pas en adopter un de là, et puis voilà, puis s'est retrouvé dans ce truc, mais il souffre beaucoup d'hospitalisme, et puis il a des gros problèmes de psychotique, hein, alors ça va mieux, mais aucune scolarité, hôpital de jour, des centres. Alors là, j'ai découvert le monde merveilleux de l'handicap. Voilà, des joyeux parents de l'handicap, où je me suis rendu compte que, pareil, dans le milieu handicap, on profite à fond de la culpabilisation. On fait culpabiliser les parents maximum. Ah oui, oui, si vous avez un gamin qui ne va pas bien.
C'est une
faute. Ah oui, généralement c'est la faute de la mère. Et puis après c'est le couple, et puis après c'est votre vie, après c'est votre boulot. Il faut toujours trouver un truc qui vient de vous. Quand enfant on dit ah bah oui, en fait il a vraiment un problème ce gamin, bah, il s'est passé quelques années. Donc il y a des couples qui explosent, il y a des gens où ça les déprime complètement. Ce que je comprends, hein, c'est le truc. Parce que j'ai des amis pareil, quand un gamin handicapé, je sais bien, c'est pas facile. Et une négation complète de la société, du conseil général qui est responsable de l'enfance handicapée, mais qui, ça commence à bouger, mais il y a encore quelques années, il n'y avait aucun centre sur le Loiret pour mettre votre enfant handicapé. Sachant qu'un enfant handicapé, qu'il soit autiste, psychotique ou ce qu'ils ont, tout ça, c'est mignon quand il a 5 ans, un jour il a 20 ans, donc il faut s'en occuper quand il a 5 ans. Ça commence à bouger, mais maintenant il y a une maison à Bonny pour les enfants autistes et les jeunes adultes autistes. Et ça, le Loiret est vachement en retard. Hein. Donc notre gamin est obligé de le mettre dans des établissements en dehors du Loiret, où là, normalement, n'étant pas du département, il n'avait pas le droit d'y aller. Enfin, le truc.
Ah ouais.
C'est.
Ouais, ça doit pas être simple.
Les trucs, c'est. Il a même été à l'école, il y a eu des tas de. Sans arrêt des blocages par les psys, par l'éducation nationale. L'handicap à l'école n'est pas accepté. Il a fait 2 ans, quand il avait déjà 10-11 ans, hein, il s'est fait 2 ans de CM1, CM2 dans une petite école sur la mode Beuvron, très bien accepté par l'école, une école de petits bleds qui acceptait quelques enfants handicapés dans l'école. Tout se passait bien, l'inspecteur d'académie l'a viré.
Non.
Voilà, parce qu'il lui a dit, bah non, il a 12 ans, donc sa place n'est plus ici, il doit aller au collège. Le collège, ça se traduit par fugue. Voilà. Et tout comme ça. Tout comme ça. Ça, c'est comme les gamins, là comme là, encore le gamin schizophrène, il y a eu encore un fait divers.
Qui a poussé quelqu'un.
Je ne suis pas du tout étonné. Notre gamin, nous, il a fugué de aller entre 14 et 16 ans, quasiment, c'est monté en exponentiel jusqu'à disparaître pendant 6 mois. Et quand il a 18 ans, il a redisparu pendant 2 ans.
Oh là là.
Il a une carte d'handicap et tout. Appeler qui vous voulez, la police, tout ça. Personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Je ne dis pas que la police s'en fout. Hein. La police vous dit, voilà monsieur, brigade des mineurs qui sont en relien, nous sommes 4. 9h du matin, 18h30. Il y a 150 gamins en moyenne à chercher par semaine. Sur tout l'anneau, comment on fait? Bon, voilà. Donc tout est, voilà, bon, c'est un truc... on en apprend.
Ouais.
Et quand il disparaît, vous le retrouvez, on peut le retrouver, hein, avec une requête avec la police de quartier sur l'Argonne, ils me l'ont retrouvé plusieurs fois. Mais après, comme c'est pas écrit sur sa tête, je suis handicapé, qui se balade pas avec une carte, puis lui c'est surtout, ça n'existe pas, puis je suis pas malade, c'est les autres, il il a toutes les apparences de normalité. Le gamin arrêté, mais le gamin relâché le lendemain, j'ai même pas le temps d'aller le chercher.
Ouais. C'est quand même bizarre ça, il pourrait, je sais pas, contacter les parents, s'inquiéter.
Oui, il vous contacte, mais.
Et le temps que vous. Et
voilà, où ils disent bon, on le met à l'HP, à tout. On fait le coup deux fois, ils l'ont mis à l'HP. Et
la troisième fois, le policier m'a dit vous savez, monsieur, ça, on peut durer longtemps comme ça, on prend votre gamin, on le retrouve. On l'amène à l'HP, mais là il y a le médecin chef de l'HP qui
dit mais non, c'est les parents qui. Ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est rentrer dans le système judiciaire, porter plainte, machin, etc. Mais là, j'avoue, j'ai pas l'énergie. Parce que quand on se tape déjà des années de trucs, bon, tout est relatif après. Hein. Ça devient. Donc c'est ça, quand je vois les pauvres parents, j'imagine ça tout à fait. Le nombre de fois où j'ai eu ce type de problème, où j'ai appelé l'assistante sociale, le conseil général, machin. Puis on vous dit, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on dit, non, on peut rien faire, on ne va pas vous l'écrire. Hein. C'est comme l'hospitalisation d'office. Là, ce qu'ils ont dit, oui, les parents devaient demander une hospitalisation. Mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. On vous acceptera l'hospitalisation s'il y a une grosse connerie. Si le gamin il tente de tuer quelqu'un, en gros. J'ai un ami qui a vécu la même chose que nous, deux ans avant, avec son fils. Ça s'est arrêté, on l'a pris au sérieux le jour où le fils a essayé de le tuer. Le vrai, quoi, avec un pistolet et tout. Là, tout d'un coup, tout était en place pour faire marcher la machine. Sinon, effectivement, on dit toujours, oui, vous voulez, comme si vous vouliez interner votre vieille mère pour tuer l'héritage. Ouais. C'est ça, hein, ça reste sur un niveau. C'est très basique. Hein.
Et le fait d'être marionnettiste, artiste, ça, est-ce que ça a aidé pour vos enfants? Ou est-ce que votre fille a eu envie de suivre la même voie? Ou est-ce qu'elle
Non, pas du tout.
Quelque chose de totalement différent.
Un peu différent, c'est les langues. Elle est dans un projet d'interculturalité avec toute une part culturelle, une part aussi sur le gestion, communication, tout ça. Elle commence un peu à voir un peu vers quoi ça l'amène. Et nous, elle est attirée par le spectacle, mais elle connaît aussi l'envers du décor. Et elle a fait de la danse, du chant.
Ça, comme tous les gamins aujourd'hui, ce qui est bien. Hein.
Ce qui est bien. Peut-être que ça reviendra, mais bon, c'est pas.
Et donc, là, il y avait des questions sur les enfants, sur les activités, mais donc maintenant, comme ils sont grands, mais il y avait ils ont fait pas mal de choses, ou du moins Sarah, tous, quand elle était.
Oui, Sarah a plein d'activités sportives.
Je vais juste baisser peut-être un petit peu le micro, on va mettre là.
Wow. Ah, le fils aussi, hein, gros sportif. Oui, Sarah, le sport impeccable. Mmh. Le football, tout ce qui est activité, la natation. Le bateau, la fille pareil, elle a fait beaucoup de gym, elle adorait ça, la gymnastique. Hein. Ouais, surtout gymnastique en fait. Après elle a fait du cirque, pendant plusieurs années elle voulait faire du cirque, donc elle a fait de l'acrobatie, du trapèze, elle faisait les stages chez Fratellini. Elle pouvait faire dans le spectacle, hein, mais moi là-dessus j'ai pas. Quand elle m'a dit, est-ce que je deviens artiste, est-ce que tu vas m'embaucher? Moi, j'ai dit non. Je ne fais pas travailler mes enfants. Peut-être dans 10 ans, ça se fera, mais à la limite, elle n'aura plus besoin. Je veux dire, c'est pas. Je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, je suis dans. Avec ma femme, on fonctionne un peu comme ça. On donne tous les moyens à nos gamins. Pour Raphaël, c'est pareil. Hein. Sarah et Raphaël. Il a les mêmes moyens que sa sœur. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Et moi, je vois pour la fille, pour que ça commence à prendre tournure, là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour elle qu'elle tente plein d'expériences plutôt que reprendre une affaire familiale qui n'est pas une affaire familiale. Parce qu'on n'est pas. On est obligé de fonctionner en entreprise hein, quand on est une troupe de théâtre, tout ça. Bon, ça, c'est la norme administrative qui est de plus en plus contraignante, les impôts, les machins. toutes les caisses, enfin, c'est de plus en plus compliqué à gérer. Mais moi, je ne le conçois pas, je ne me prends pas pour le directeur de la boutique avec ses petits employés. On est directeur dans le sens responsable de la chose artistique, du projet artistique, ça d'accord, ça j'assume à fond. Pour le reste, on partage avec l'administratrice qui était là tout à l'heure, la jeune fille qui nous fait la diffusion, il y a une jeune, en ce moment, il y a une jeune apprentie aussi. Mmh. Moi, je suis pour le partage de tout ce qu'on fait. On pouvait très bien rester tous les deux. On a des collègues qui ont fait ça, qui ont monté leur compagnie. Quand on fait du spectacle jeune public marionnette, on peut travailler à deux, ne jouer que des spectacles où on est deux, où on fait tout, et on a une petite économie, et ça marche. Hein. Il n'y a pas de problème. On a moins d'ennuis que dès qu'on se dit... Moi, dans l'idée, c'est jamais faire deux fois les mêmes spectacles, etc. C'est qu'on avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Ce que j'essaie d'expliquer là, aux plus jeunes, l'important aujourd'hui, ce n'est pas de celui qui va jouer le plus, mais c'est qu'est-ce qu'on joue, pour qui. C'est pas parce qu'on va jouer 300 fois, si on joue 300 fois, très bien. Mais on peut pas tenir ça pendant 30 ans, c'est pas possible. Donc il y a des hauts et des bas. Donc, ou bien se mettre en phase avec le spectacle qui va tourner, ben on le tourne un certain nombre d'années, mais à côté, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. Là, on est sur deux nouveaux projets qu'on va mettre 3 ans à faire, où on va retrouver des choses qu'on a faites, mais on se met des nouveaux défis. Ça peut être en fabrication de marionnettes, comme en comédien, ou je sais pas quoi. Bon, on va voir au fur et à mesure. C'est pour ça aussi qu'on fait du cinéma, ce qu'on appelle le petit cinéma. On fait beaucoup de cinéma pour ça aussi.
Justement, en ce qui concerne votre métier, la multifacette, ça vous est venu comment? C'est un rêve d'enfant ou c'est par coïncidence?
Moi, ouais. Non, moi depuis tout petit. Hein. Là, peut-être bête de dire ça, mais bon, je sais pas si ça existe, si j'en croise des fois. Et non, je dessinais quand j'étais petit, j'ai toujours dessiné. Et à l'école primaire, on avait un ciné-club. Ça m'a beaucoup impressionné. C'était plusieurs fois par an, on sortait du collège, on allait dans un vieux cinéma, et là il y a quelqu'un qui venait, l'animateur du ciné-club, qui disait aujourd'hui je vais vous passer une histoire de baleine, et puis il nous passait Moby Dick. Ça m'est resté, je devais avoir 7-8 ans, Moby Dick, poum. Et en plus, il y a quelqu'un qui présentait. Donc, quand j'étais gamin, comme ça, avant de connaître le cinéma, comment c'est fait, je pensais vraiment que que c'était la réalité, vu que quelqu'un était là qui nous présentait l'affaire. Voilà, je vous présente un film et tout, et j'avais pas le recul, donc je pensais vraiment que quelqu'un qui avait vu ça pour de vrai, et donc hop, c'était super. Comme ça, oui, j'ai vu plein de films, je suis devenu un fanat de cinéma. Après, je me suis fait embaucher pour déchirer les tickets dans mon cinéma de quartier. Moi, je suis devenu projectionniste tout en étant au lycée. Là. J'ai passé mon CAP tout en étant au lycée. Et ma dernière année de terminale, j'ai démissionné, j'ai quitté le lycée.
D'accord.
Je l'ai dit, j'ai fait le premier trimestre. Puis j'ai vu que ça irait pas, j'arrivais pas au bout. Je frôlais l'explosion. En plus, j'avais été à Paris plusieurs fois entre 16 ans et 18 ans pour faire des stages de projectionniste à l'école Vaugirard. Donc, j'avais revu plein de trucs. Puis à Paris, tout seul et tout. C'était super, ça. Et l'école, ils vous logeaient dans un hôtel de quartier. Donc, tout d'un coup, je me trouvais tout seul dans une énorme ville que je connaissais pas. Où je passais ma sécurité, si j'allais dans les salles de cinéma. Comme ça, j'étais tranquille. Ça, je connaissais, et je voyais des films, et bon, voilà, quoi. Et quand je suis rentré la dernière année où j'ai fait ça, je suis rentré au lycée où je m'entendais bien avec mes professeurs, tout ça. Je m'entendais très bien avec mon professeur d'anglais, alors que il ne me mettait pas zéro, parce que je m'occupais du ciné-club, et lui était fanat du ciné-club. Donc on faisait le ciné-club ensemble. Et j'en ai pas mal parlé avec lui, je lui ai dit à lui, à une autre prof aussi, qui était une prof d'anglais, qui était très sympa, et qui aimait bien communiquer avec les élèves. Donc, et puis un prof d'espagnol, c'est marrant, c'est prof de langue. Je leur ai dit que j'en avais marre, quoi. J'allais vraiment exploser, quoi. Et du coup, j'ai quitté le lycée. Je l'ai dit à mon père. Après, j'ai été le dire au proviseur, qui n'a pas compris, mais bon, je lui ai dit que... Et en plus, j'étais vraiment en révolte, hein. J'aurais bien tapé sur le proviseur, hein. Il avait viré ma copine, il avait viré un autre gars, il faisait des réflexions sur les cheveux longs, c'était... Ouais. Ah oui, ça c'est... Bah, je pense que j'étais dans une crise d'ado, voilà. Et donc, hop, j'ai quitté, j'ai trouvé un boulot, j'ai travaillé 3 mois, j'ai passé l'examen pour entrer au conservatoire à Paris, au conservatoire de cinéma, je suis entré là-bas au conservatoire de cinéma. J'ai fait 1 an, que j'avais préparé, en cours du soir chez moi déjà depuis 1 an. En fait, c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'au lycée, je m'embêtais beaucoup. Vraiment, je m'ennuyais. Au collège, je trouvais ça passionnant. Au lycée, je m'ennuyais. Les gens de ma classe, je dis pas que j'ai pas de copains, je faisais beaucoup de sport, donc je rencontrais beaucoup de gens, mais moi, j'étais plus dans une certaine réalité ouvrière, de gagner sa vie. Ceux qui disaient je vais à la fac, tout ça, moi ça me faisait peur, je ne savais même pas ce que c'était. Vu qu'autour de moi j'habitais dans un quartier où personne ne fait la fac. Donc c'était mystère. Hein. Mais ça ne m'intéressait pas d'aller voir. Moi c'était cinéma, faire du cinéma, apprendre encore plus, et puis trouver un boulot dans le cinéma, puis voilà.
C'est amusant, il y a quand même, parce que le cinéma c'est le. C'est le rêve, l'imagination, puis de l'autre côté, il y a quelque chose de très terre-à-terre, gagner sa vie, donc vous étiez ancré des deux côtés.
Oui, puis mon père, là-dessus, était très clair, hein. Il avait dit, les gars, j'ai un frère, hein, qui, pareil, avait quitté en terminale, il s'était barré, alors que lui, il était vraiment super, super doué, hein. Mais il est parti zoner pendant 1 an, 2 ans, gagner sa vie, mon père nous avait dit, les gars, comme vous voulez, mais si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez à l'usine. Donc si vous ne voulez pas à l'usine, ben, faut vous remuer. Si vous ne voulez pas du lycée, ben, trouvez autre chose, mais démerdez-vous. Quoi. Là-dessus, non, mais pas en gueulant, hein, je veux dire en discussion, et puis toujours nous encourageons, tout ça, là-dessus, il n'y a pas eu de... Non, là-dessus, non, c'était une... Bonne éducation, je dirais, populaire, dans tout le bon sens du terme. Hein, puisque le quartier, c'était vraiment des gens partout, des gens qui venaient chez vous, une télé pour 5-6 voisins. Ça, c'était super marrant, ça. Super marrant. Plein de monde à la maison. Ma mère, elle adorait garder les gamins. Il y avait toujours des cousins. Il y avait toujours plus pauvres à accueillir. Il y avait un truc comme ça, donc ça, c'était bien.
Donc votre métier, c'était projectionniste alors?
Oui, au début, projectionniste. Après, j'ai fait l'école pour devenir réalisateur. Donc j'ai appris le cinéma à l'autre côté, comment ça marchait, tout ça. Et puis de là, j'ai rencontré des gens sur Paris, des gens qui faisaient du théâtre. Et à Paris, ouais, le hasard complet. Je suis arrivé à Paris, j'avais pas de boulot et pas d'appartement. Et j'avais tout claqué, mes économies, naturellement. J'ai travaillé jusqu'en juin, je suis parti en vacances avec un copain, et on a tout dépensé, on a fait le tour de France. Bon, j'ai rien dit à ma mère, je suis parti à Paris comme si rien n'était. Et là-bas, dans la même journée, j'ai trouvé l'appartement et le boulot. Je me suis fait embaucher aux Fédérations du Ciné-Club Jean Vigo. Ça, c'était génial, parce que j'étais responsable du stock de films. Et je vérifiais les films. Donc tous les jours, je pouvais me projeter 2-3 films dans la matinée, puis réparer les autres et tout. Ça, c'était super. Et puis, j'ai trouvé un logement avec un gars qui s'appelle Alain, qui est devenu maintenant une grosse vedette du théâtre et tout.
Ah bah oui, le nom
est familier. Oui, il a eu plein de Molière et tout. Et Alain, il a 5 ans de plus que moi, donc il avait 25 ans. Moi, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Et... Non, j'ai 19 ans quand j'étais chez lui. Enfin bon. Et il démarrait le théâtre, donc il faisait déjà du théâtre. Et alors là, moi, ça m'a complètement impressionné. Parce que dans mon petit bled, le théâtre pour moi, c'était les amis du théâtre du boulevard. C'était les troupes amateurs, on se voit ensemble pour faire un truc rigolo. Et là, je voyais un gars qui me dit, ah ben moi je suis comédien, je fais du théâtre, tout ça, non, non. Puis il avait déjà un petit parcours. Et il me dit, tu vois, par rapport au cinéma, il me dit, c'est beaucoup plus simple. Je prends les poèmes de Prévert, je vais à la terrasse d'un bistrot, je dis mes poèmes de Prévert, et on me donne des sous. Ah, je me dis, merde, ah oui. Alors que le cinéma, il faut énormément d'argent avant de faire un petit truc. Ça, je l'ai compris après.
Oui, donc comme quoi, oui, c'est les coïncidences de la vie.
Ah ouais, ouais.
Avec un colocataire qui avait une passion pour le.
Ouais, puis c'est, puis on s'est bien entendu, et puis non, ça m'a appris beaucoup de choses, moi. C'est comme ça que j'ai fait Avignon la première fois en 76. J'avais 20 ans, donc, et j'ai fait tout le festival d'Avignon. J'avais jamais vu ça. Des compagnies partout. Oh là là, un truc. Oui.
Et donc les marionnettes, c'est venu quand?
Ça, c'est la rencontre avec Annie. En fait, on s'est rencontrés à Cartoucherie de Vincennes, où elle bossait sur un atelier marionnettes. Mais Annie, elle était plus... Elle est un petit peu plus âgée que moi. Elle avait son doctorat. Elle avait déjà bossé dans la pub, le truc. Elle, c'était l'intello. Mais qui en avait marre du... Enfin, qui voulait pas rester, je dirais, dans le truc, gagner de l'argent, être cadre, tout ça... Enseigner, elle ne pouvait pas. Elle a essayé directrice affaires culturelles, elle l'a fait, mais au bout de 6 mois, elle craquait parce que le rapport avec les élus, elle ne pouvait pas. Donc en fait, elle s'est orientée, marionnette, art plastique. Mais à travers un groupe, il y avait vraiment, à la cartoucherie, il y avait un collectif qui travaillait. Il y avait un petit noyau, et puis après, tout le monde pouvait venir faire des masques, des marionnettes, jouer la comédie, tout ça. Bon. Et on a fait un projet à plusieurs, on était une bonne dizaine, de partir sur les routes. Alors on a fait ça pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, on s'est trouvé qu'on n'était plus que 2. Voilà. Les autres ont repris d'autres chemins. Certains sont devenus professionnels, d'autres sont devenus profs. Il y a beaucoup de gens de l'éducation nationale, dans le milieu artistique. Et encore aujourd'hui, il y a la moitié des gens de ma génération, c'est l'éducation nationale. C'est peut-être même plus. Ils tiennent beaucoup la culture encore. Je pense que ça ne sera pas ça dans les années à venir, parce qu'il y a de moins en moins d'enseignants. Donc il y a de moins en moins qui vont commencer enseignant, enfin y arriver, pour se dire, ah ben non, je vais faire du théâtre.
D'accord. Et donc là, vous montez des projets, vous faites des spectacles. Les marionnettes, c'est au Parc Pasteur.
Ouais, on a fait des spectacles itinérants. 118, 119, 80, après on arrive à Orléans. À Orléans, ça a pas mal marché. On a eu un an de trou à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les spectacles ou pas? Parce qu'on n'avait pas de sous, hein. C'était raide de raide. Hein. Et là, il y a eu un déclic, on s'est dit, bon, après tout, on a un spectacle qui existe, qui s'appelait Ama Galactique, je m'en souviens très bien. Un petit spectacle avec des marionnettes, il n'y a pas de parole, avec de la musique, de jazz, et on jouait dans les écoles. Et il y a un des inspecteurs de la commission culture, éducation nationale qui l'a vu, et qui a dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu un truc aussi bien et tout. Donc c'est peu de dire qu'il nous a filé un coup de main, c'est devenu un copain, là maintenant il a pris sa retraite. Et il nous a ouvert les portes des circuits culturels. D'ailleurs, 2 ans après, on jouait à la Maison de la Culture d'Orléans. La Maison de la Culture de Bourges, où pendant plusieurs années on a joué. Voilà, tout ça.
C'est beaucoup de rencontres, en fait.
Oui, de rencontres. Les gens vont à votre boulot, puis après ils vous invitent. Puis... Parce que, bon, moi je suis pas bon commerçant, de toute façon. Donc, et puis le problème, c'est dans le spectacle, il y a un côté vente, hein, obligé.
Ouais.
Le spectateur, il achète son billet et celui qui est sur scène, il a vendu sa prestation. Donc,
La jeune femme qui travaillait là derrière, justement, elle s'occupe du relationnel.
Ouais, un peu, ouais.
De vendre les spectacles.
Ouais, mais c'est tellement. Là, c'est tellement la grosse. C'est vraiment grosse galère en ce moment-là depuis quelques années. C'est de pire en pire. Donc, même elle, on peut plus. Corinne, on peut plus. L'embaucher depuis 1er janvier. Là, elle est revenue à moi, mais elle n'était pas là depuis 3 mois, on ne pouvait plus la payer. Il y a un crash total là, dans la culture en France. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, ça ne sort pas encore. Les compagnies, tout le monde baisse la tête en disant « ça va passer, mais ça ne va pas passer du tout. Ça ne passera pas, ce n'est pas, pas possible. » C'est pas possible. Et comme on est nombreux aujourd'hui, il y a ceux qui veulent tirer et dire « bon, on va s'occuper que de l'excellence. » Mais en bas, il y a beaucoup de monde à la base. Donc eux-mêmes vendent moins cher, le secteur se paupérise. Enfin, c'est une vraie cata. Hein, c'est...
Et là, le public que vous avez, c'est plus des enfants ou c'est pour tout le monde ?
Alors, au Parc Pasteur, on a repris en 88. Donc, c'était une municipalité d'Oufiag. Jacques d'Oufiag, Jean-Claude Penaud, adjoint culture, je m'en souviens. Et on a repris le Parc Pasteur, qui était un guignol, qui ne marchait pas depuis 3 ans, qui était désaffecté. Et puis, avec la municipalité, bon, on a retapé un peu le lieu, et puis voilà. Puis l'idée de départ, c'était de... C'est Annie surtout qui avait envie de ça, d'animer comme ça un lieu. C'était de jouer nos spectacles, mais aussi inviter d'autres spectacles. Donc ça, on l'a fait dès le début. Toujours sur cette idée du partage. C'est pas parce qu'on a un lieu qu'on va pas le partager, donc on l'a partagé avec d'autres. On a trouvé donc des subventions pour payer les gens qui viendraient jouer dans le théâtre, etc. Et ça marche pas trop mal, mais le gros succès côté public, énorme succès, mais côté reconnaissance, ça patine. Depuis 2003, le maire dit qu'il va nous faire un nouveau théâtre, mais bon, on aura un stade pour le basket avant, etc. Et puis après, le basket sera autre chose. Bon, parce qu'au bout du compte, quand on arrive, il faut prendre les décisions, c'est pour les enfants. Il y a problème, quoi. Ça passe pas. Ça ne passe pas.
Ils votent pas encore, donc c'est peut-être pas...
Oui, mais les parents votent, donc... Non, mais je pense que pour eux, leur propre ego, c'est pas assez prestigieux, je pense. C'est ce genre de truc, hein, je pense. Et ça se trouve, les élus, ils ont besoin de se projeter dans ce qu'ils réalisent. Ouais, pour dire, oui, c'est moi qui... Alors, c'est peut-être plus valorisant de dire, oui, cette belle médiathèque, je l'ai faite, elle est à mon image. Que de dire ce théâtre pour enfants, il a mon image, ils se disent peut-être on va... Alors que bon, si on analyse la culture en France, là, depuis, même si on prend depuis le début du siècle, depuis le début de l'autre siècle, hein, depuis un siècle, on va dire, c'est vrai que c'est assez étonnant, il y a une énorme diversité, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais sur ces histoires de jeunes publics, de marionnettes et tout ça, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est lent. Voir dans les pays de l'Est, par exemple, dans chaque ville, il y avait un théâtre de marionnettes, ou un théâtre pour enfants, mais aussi un théâtre pour la danse, un théâtre pour l'opéra. C'est-à-dire que bon, c'est les bons côtés du système communiste. Hein. Après, j'arrêterai là, parce que après, ils vivent, c'était quand même plus que merdique. Très, très dur. Et bon. Mais de ce côté-là, non, ils avaient appliqué une règle, bah, qu'on en fera plus. Bon, normal que, par exemple, à Paris, il n'y a pas de théâtre de marionnettes à Paris. Ah. Il y en a un, il y a le théâtre de marionnettes à Paris, qui est né en 92, mais qui n'a pas de lieu. Il se déplace de salle en salle, au bon vouloir des gens qui veulent bien louer leur salle. Donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout.
Oui, c'est étonnant.
Ah oui, ça avance doucement. Hein. Pour moi, c'est comme... tout ça, c'est des problèmes politiques. On a peur des jeunes, comme on a peur des enfants. Donc on veut bien en parler. On en parle de ça. Alors pour parler, pour gloser, pour redire, là en ce moment à nouveau, c'est les colloques sur le jeune public, qu'est-ce que c'est, comment il faut parler aux enfants, patati patato. Mais moi, depuis que je travaille, j'en ai vu des rapports là-dessus, des commissions, on a fait des études, on a répondu à des questionnaires. Mais à un moment donné, il faut décider. Parce que s'il y a eu un très bon rapport il y a 10 ans, pourquoi on ne l'a pas appliqué? Pourquoi on est obligé de refaire un autre pour arriver au même résultat? On va arriver au même résultat. Qui est côté jeune public, marié, tout ça, il n'y a pas de moyens. Pas de moyens, pas de moyens, pas de moyens.
Et alors pour continuer là-dessus, par exemple, une journée de travail typique, c'est quoi pour... Pour vous, soit en ce moment, ou soit quand vous préparez un spectacle?
Ah ben, ouais, ça dépend. Pour moi, ça dépend. dépend si je suis sur un spectacle ou pas. Sinon, généralement, j'essaie de partager entre, en moyenne, un petit peu de bureau pour suivre ce qui se passe, du relationnel, je vais voir les gens. Je suis impliqué là dans le bâtiment ici, donc j'essaie de suivre tout ça. Parce qu'après, il y a des périodes où on tourne les spectacles, donc là, on n'est pas là du tout. On s'occupe que de tourner. C'est tourner, bah, c'est monter, démonter, aller à l'hôtel, jouer, repartir, changer de ville. Bon, ce qui est, bon, on n'a pas le temps de faire vraiment autre chose. Même si maintenant, on peut se balader avec un portable, voir des emails et tout, mais bon, carte de contact. Sinon, on va dire on est en coupure. Et puis, l'autre tiers du travail, c'est le... tout ce qui est création, quoi, préparation, ce qui est le plus passionnant, c'est ça. C'est préparer, après répéter, écrire les projets. Là, on a plusieurs projets en parallèle, bon, ils ne vont pas tous se faire, mais bon, ça, c'est le plus, vraiment le plus intéressant. Pour ce qui est du théâtre, bon, moi, je propose des choses, mais je délègue pas mal à Annie, puis à Dominique, qui est l'administratrice, parce qu'elle, ça la passionne, donc... qui on invite, tout ça. Là aussi, c'est bien que ce soit collégial, comme ça on est pour tous les goûts, parce que c'est vrai qu'on n'essaie pas d'imposer une vision de la marionnette aux spectateurs de Blockbuster. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que les gens, ils aiment... Bon, les retours sont toujours bons, mais j'aime bien, des fois, il y a des gens qui me disent, bon, le spectacle est bien, hein, non, mais j'ai pas aimé, pour telle ou telle raison. Ça, c'est bien. C'est bien qu'on avance, quoi. C'est pas parce que c'est pour enfants que ça doit plaire à tout le monde. Et c'est bien quand des enfants voient un spectacle et qui sont partagés. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est... Là, c'est intéressant. Il y a débat, quoi.
Vous les créez vous-même les... Enfin, c'est Annie qui fait les marionnettes.
Oui, Annie fait plutôt les marionnettes. Des fois, la mise en scène, des fois... Là, celui qu'on joue, là, un manipulateur, ça, c'est un gros boulot parce que il y a un texte très difficile. Je suis tout seul sur scène. Mais ça, j'avais envie de le faire, celui-là. J'avais envie de le faire en me disant, bon, si je dois en faire encore un, marionnette purement, sur scène, celui-là, ça me plaît bien. En plus, c'est le texte de Neville Tranter, qui est un grand artiste hollandais, australien, mais qui habite en Hollande depuis longtemps, et qu'on a rencontré à cette occasion. Je lui ai demandé son accord, il nous a beaucoup aidés. Et là, je compte l'inviter maintenant l'an prochain pour qu'il vienne m'aider à reprendre et tout ça, qu'on retravaille là-dessus. Ça, c'est les bons côtés du boulot. Après, là où c'est intéressant, c'est que par exemple, ce spectacle, on l'a joué à Charleville au Festival Mondial. Côté public, je dirais, les retours sont assez bons. À 70%, je veux dire, ça va, les gens vont bien, tout ça. Il y a un petit bout qui n'aime pas, je comprends pourquoi, c'est assez provoque, c'est un texte assez provocateur. Et côté professionnel, il y en a énormément qui n'aiment pas. Mais justement, là, c'est intéressant. Parce qu'il se passe quelque chose. Bon. Donc là, je vais voir, on va voir comment on le reprend l'an prochain, on verra ça.
Et au niveau du cinéma, c'est plus votre partie. Et vous faites aussi des choses. Enfin, j'ai vu des images ici, Super 8, etc. Oui, projection dans des containers.
On fait beaucoup de choses en installation, en petits films. Là, on a travaillé, le week-end dernier, on travaillait un film musical pour le Festival Excentrique qu'on a fait avec des jeunes d'un quartier du côté de Chartres, là, à Mainvilliers, avec un chanteur de rap qui est orléanais. Qu'on a mis dans le projet, donc on essaye des trucs. Et pourquoi le Super 8? Pour moi, c'est je refuse pas le numérique et tout ça. Hein. Je monte tous les films en numérique, on est super équipés, tout ça, on sait s'en servir, mais le Super 8, c'est du cinéma, c'est la pellicule. Donc il y a une contrainte déjà de coût, parce que c'est 30 euros la minute, donc c'est pas comme acheter une cassette à 2,50 € qui dure 90 minutes. Donc ça demande tout un travail. Quand on travaille avec des jeunes ou des moins jeunes, quand on dit voilà, on a droit à tant de minutes de prise et non pas une demi-heure, donc ça veut dire qu'il faut une grosse préparation. Donc il y a tout un côté de contrainte qui est bien, qui oblige à aller au bout, avant même de tourner, déjà aller au bout des idées, du projet. Il y a un petit côté, je ne peux pas dire éducatif, mais bon, un peu. Que j'aime bien, moi. J'aime bien.
D'accord. Et donc là, on sort un peu du travail. C'est une question sur les loisirs. Donc, enfin, quoi que votre. Vu comme vous le décrivez, c'est aussi une partie de plaisir, c'est un peu des loisirs. Mais quand vous ne travaillez pas, quand vous ne préparez pas un projet ou un spectacle, qu'est-ce que vous faites le week-end, les vacances?
On se promène beaucoup, on marche à pied, maintenant le tandem, on s'est trouvé un tandem, on fait du tandem en bord de Loire. Et puis, ouais, on aime bien visiter, moi j'aime bien les expos, les églises, les trucs à aller voir. Bah, on prend des vacances, on arrive à en prendre, on dit, quelque part on s'oblige, même là en ce moment, là on est en train de refaire un planning pour se prendre vraiment un jour de coupure par semaine. Ou alors venir qu'à mi-temps, c'est des périodes où il y a un peu moins de travail. Donc il faut qu'on arrive à décompresser. Et sinon, moi je fais de la peinture, j'adore peindre, faire du jardin. Ouais. Parce que tout, en plus, dès que. Je pense que ça doit être ça aussi dans d'autres boulots, hein, mais dès qu'on est plus sur notre lieu de travail, ou dans notre théâtre, tout ça, ou qu'on est plus en situation professionnelle, on a 10 fois plus d'idées. Ça fonctionne à fond la caisse, tout devient très clair. Ah ouais, c'est. Quand on écrit un spectacle, qu'on veut travailler vraiment un spectacle et tout, d'ailleurs, je remarque que maintenant ça se fait de plus en plus, on fait ce qu'on appelle des résidences d'écriture, c'est-à-dire on va dans un endroit pour écrire. Nous, on faisait ça avec Annie, on partait 15 jours, on prend un gîte en Bretagne, hop, on s'installe là, même quand on est les gamins, on faisait ça. Puis voilà, puis vous n'êtes pas chez vous, il y a déjà des tas de choses que vous n'allez pas faire. Donc, facilement, on va trouver 2 heures pour écrire tous les jours, ou 3 heures. Et tout de suite, tout devient beaucoup plus simple.
Oui, c'est souvent quand on se couche ou quand on se réveille, qu'on a
Ouais,
des
c'est
idées, on
pareil.
les
Hein.
note,
Ah ouais,
on a un truc qui nous trotte dans la tête.
c'est ça. Ouais. C'est comme sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis, comme quand c'est notre métier, la grosse différence que ne comprennent pas plein de jeunes qui font de la musique ou du théâtre, tout ça, c'est qu'il y a. 80% du temps, il est pris par des trucs vraiment inintéressants. Comme dans tout métier, hein. J'imagine, vous enseignez, bon, il y a des à côté. On se
Il y a
dit
des
toujours, ah, le
administratifs
prof, il bosse pas beaucoup, parce qu'on
également.
voit que là, on ne voit pas la partie immergée. Nous, c'est pareil, il y a une partie immergée. Pendant des années, surtout avec des enfants en bas âge, comme moi, je n'avais pas des enfants pour me dire, je vais les caser et tout ça, donc on arrêtait de travailler à 17 h. Alternativement, moi j'aimais bien aller chercher les gamins à la crèche, tout ça, tout le temps. On s'en occupait jusqu'à 20 h, jusqu'à temps qu'ils soient couchés. Et après, je pouvais me remettre à bosser. Et mon petit bureau chez moi, tac. Et ça, j'aimais ça, je trouvais ça très bien. Pouvoir marier les deux, ça c'est l'avantage de notre boulot aussi. Je pense un peu comme mon frère est commerçant, bon, ça m'a un peu ça, il peut faire ça aussi, mais ça ménageait, quoi. Mais c'est vrai que les enfants petits, ils acceptaient très bien le coup du spectacle et tout. Super. Une fois ados.
Ah oui, ça va
Non, non.
plaisir.
Mais je pense parce que c'est aussi, on fait du théâtre jeune public, tout ci, tout ça. Enfin, tout ça. Après, c'est revenu maintenant. La fille, elle est passionnée, tout ça, mais elle ne va pas en faire pour autant. Par contre, elle ferait plutôt. Elle se verrait bien en attaché de presse pour une grosse vedette. Vu qu'elle cause plein de langues, ben oui.
Faire la partie relations publiques.
Oui, voilà. Ouais, ça, il y a tellement de nouveaux métiers maintenant.
Et justement, à part vous, Orléans, pour les loisirs, la culture, est-ce que c'est une ville qui est bien équipée?
Aujourd'hui, je dirais oui. Je suis mitigé d'un côté oui, d'un côté bon. Je vais éviter, alors je ne vais pas parler jeune public parce que je dirais que c'est sous-équipé. Côté jeune public, c'est la vraie catastrophe. Là, en ce moment, c'est vrai, à Orléans, comme culturellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a un peu trop de séparation entre l'institution et les artistes orléanais. C'est-à-dire que là, on arrive à un point, mais qui est un peu partout en France, hein, que le politique, il faut qu'il l'entende. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas comme il y a 20 ans où il y avait 3 peintres sur Orléans, un chanteur et puis une troupe de théâtre. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a plein de troupes de théâtre, plein d'orchestres, voire le festival de jazz, tous les jeunes Orléanais qui jouent et qui jouent super bien. Donc, il faut faire le lien et l'institution, le grand théâtre et tout, s'enferme dans un espèce de truc bourgeois, pour moi réactionnaire.
à petit il devient, enfin, ça sclérose complètement. Et, mais comme au début de 1900, c'est-à-dire le théâtre bourgeois, le théâtre de ville, le théâtre bourgeois, fait pour les bourgeois, les gens des quartiers, ils foutent jamais les pieds au grand théâtre, on peut me dire ce qu'on veut.
Moi, je n'y vais plus personnellement. Je ne vais plus au grand théâtre, d'institution, non pas à cause des personnes, hein, mais symboliquement, depuis 2003, on a eu les grands mouvements intermittents. Et toutes ces grandes maisons qui sont nos maisons, c'est-à-dire ça, le coton, on entend à la radio, la maison de la culture, Malraux, tout ça, très bien. Il a fait ça pour les artistes, c'était la maison des artistes. Dans les années 80, on pouvait encore rentrer dans les maisons de la culture, on disait « Bienvenue, tu es chez toi ». Aujourd'hui, tout ça c'est devenu, ça appartient à quelqu'un qui est nommé. Et puis après, on a du spectacle à consommer, mais il n'y a plus de place. Alors on va nous dire « Oui, mais si, on prête la salle pour les répétitions d'une jeune compagnie et tout. » C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut trouver la mesure entre ce qu'on fait ici au 108. C'est pour l'autogestion, c'est en gestion de bâtiments, d'espace. On fait aussi de la programmation, il y a des concerts dans la cour. Il faut trouver le moyen entre ça et puis l'institution. Sinon l'institution, dans quelques années, il n'y aura plus personne. Parce que les abonnés, les fameux abonnés, ils sont issus des années 60. C'est les ATP, c'est tout ce qui est action populaire... Et tout ça, c'est des valeurs qui se perdent. Les gens vieillissent et ceux qui viennent derrière, ça ne les intéresse pas. Moi, je vois bien autour de moi, hein. Même dans le bâtiment, même dans le milieu artistique qui compose le bâtiment, il y en a plein, ils ne foutent jamais les pieds dans l'institution. Et là, il ne faut pas se dire c'est parce qu'ils ne savent pas tout ça. Si, la plupart, ils ont plus d'études que moi. C'est que ça ne les intéresse pas parce que ça ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse encore à des gens... Il y a une nouvelle génération qu'on dit un peu bobo, tout ça, d'accord, mais minime. Et comme aussi les grands théâtres, les théâtres de ville se nourrissaient d'abonnements, donc de comités d'entreprise.
Oui.
Les comités d'entreprise, c'est en voie de disparition. C'est comme les usines, comme les grosses entreprises, bon, il va y en avoir de moins en moins. Donc pareil, tout ça c'est un public qui disparaît. Ça, à la limite, c'est encore le dernier maillon... populaire qui pouvait aller au grand théâtre. Bon, ça c'est. Mais bon, je suis pas. Alors, comme je ne vais plus dans l'institution, j'en profite pour retourner voir ce qui se passe dans les quartiers, dans les jeunes compagnies qui jouent, voilà,
voir un peu ce qui se passe à Orléans.
Je dis pas que je chante beaucoup, hein, parce que quand j'ai du temps de libre, moi je serais plutôt. Dans mon atelier, à faire des dessins, préparer des trucs. Mais pour moi, hein, j'ai toute une production que je n'utilise jamais en spectacle, pas directement, on va dire. C'est mon petit théâtre personnel.
Ouais.
Je fais des photos, des films que j'expose pas. Parce qu'à un moment donné, bon, j'aurais plus de loisirs si, par exemple, si j'expose mes dessins, mes photos, ça va recommencer comme dans le boulot, c'est pareil. Parce que j'aime bien les copains qui exposent, c'est un vrai métier à un moment donné, c'est pareil.
Et au niveau information, télévision, radio, journaux, est-ce que vous avez le temps d'ailleurs?
Ah oui, si j'écoute la radio le matin, France Inter, après je m'énerve.
Bon.
Oui, alors je frappe pas le poste, je l'éteins, ça m'énerve trop. Maintenant il y a l'avantage, je peux envoyer un email, alors, des fois ça me soulage, j'envoie un email. Oui, je suis assez politique, hein, je suis pas adhérent à un parti, mais j'ai été délégué syndical pendant 15 ans pour les artistes. Ouais. Alors je suis toujours syndiqué, mais j'ai remarqué qu'on a très peu de droits de parole. En ce moment, par exemple, ils n'arrêtent pas d'inviter à nouveau tous les sous-fifres du gouvernement, alors qu'il y a des vrais problèmes, on n'invite pas les gens. Ils ont parlé un tout petit peu de la culture la semaine dernière. Mais il n'y a aucune personne comme nous qui nous représente qui a été invitée pour en parler.
C'est.
Hein.
Mais c'est comme pour les chercheurs, hein, tout ça. Ou les archéologues. Hein.
Ouais.
Voilà. On les aime bien, il en faut, mais bon. Chacun a sa place et on ne lui donne pas la parole. Et quand on nous donne la parole, c'est tellement rare que tout de suite ça fait un truc exceptionnel. Vous voyez, on vous a donné la parole. Alors qu'en bonne démocratie, on devrait tous avoir la parole une fois par mois. Allez, une fois par mois, c'est pas compliqué. Plutôt que parler du dernier François Hardy, ben, il nous laisse la parole de 3 minutes.
Bah oui, c'est.
Parce que dès qu'il parle du François Hardy ou du monde, j'ai rien compris. C'est du business. C'est juste qu'ils ont des intérêts dans l'affaire et tout ça. Donc bon. En radio minimum, non, j'écoute. Et puis je regarde pas mal les infos sur Internet. Comme je travaille en ce moment, bah, souvent j'ai des films à monter et tout ça, donc moi je fais la pause en regardant les infos sur Internet, les genre rue 89, tout comme ça. Et puis je regarde beaucoup de petits films parce que y a beaucoup, comme je fais des films d'animation, j'aime bien voir un peu ce qui se fait. Et alors la magie d'Internet, maintenant c'est qu'on a un relais mondial, donc on voit des tas de choses de partout, et ça c'est très très intéressant. Très très intéressant.
Donc vous n'êtes pas télé
Si, je regarde un peu la télé, mais tard le soir, parce que j'ai pas.
Oui, quand il y a des choses intéressantes.
Oui, c'est ça, il faut que ce soit intéressant. Je regarde plus de films, sauf un DVD, c'est-à-dire que je me choisis ce que je vais voir. Vu que le ciné, j'aime bien y aller, mais en fait, j'ai jamais le temps, donc c'est pas. Quelque part, je regarde pas trop. Si j'ai du temps, je préfère aller au théâtre. Ou en concert. Mais je dis ça, j'y vais très peu. Hein. Donc, par contre, les expos, ça va être plus facile. Après, j'y vais très peu, j'y vais plus que la moyenne nationale, personnellement. Puis au kiné, j'aime bien lire. Ça, je lis énormément.
Vous avez des journées de 48 heures, alors,
pour faire tout ça. Oui, c'est un peu long. Mais bon, c'est pas.
Moi, c'est le plaisir aussi. Hein. C'est pas. Non, là-dessus. Les jours où si vraiment ça m'agace ou que j'en ai marre et tout, à ce moment je fais rien, je m'assois, je fais rien, j'attends que ça passe.
Oui, de temps en temps, ça fait du bien.
Voilà, ça fait du bien. Mais sinon, bah, toujours des. Là, je sais pas, en ce moment, j'ai remarqué que j'arrive à lire tous les jours La République du Centre, comme on est abonné. En ce moment, j'arrive à la lire parce que La République du Centre, c'est toujours des infos locales. Moi j'adore ça, parce que c'est les gens autour de nous, ce qui se passe dans la ville, dans l'autre quartier. Ça j'aime bien, parce que c'est vraiment épatant. Puis ça bientôt il n'y en aura plus des journaux dans les régions. Alors bon, profitons-en. Et puis je lis Politis, c'est le dernier truc, je suis abonné. Politis, la revue Mouvement, c'est qui est très bien. Ça c'est un mensuel, un gros truc culturel qui est très très bien. Seule critique, c'est il y a de la pub. Ça, je comprends pas. Enfin, bon, si je comprends, mais ça m'énerve un peu. C'est la pub pour Hermès, donc.
Oui.
Mais bon, alors bon, ça dit rien, je regarde mon abonnement quand même. Et Cassandre, qui est un journal très bien aussi, qui a des grosses difficultés là, en ce moment. Mais ça, c'est vraiment si des journaux culturels, mais avec des articles de fond. Donc en fait, je trouve que c'est bien, ça nourrit, quoi. Ça évite de rester dans son petit truc. Et puis Politis ou Luma. Bon, je lis un petit peu Luma, mais pas trop, parce que sinon j'aurais pas le temps. Je regarde sur Internet Luma, par contre. Et j'ai arrêté Libération, j'ai arrêté Le Monde. J'ai essayé hein, tous les jours. D'un certain moment, par exemple pour Libération, j'avais l'impression, au bout d'un plus d'un an, que c'était toujours que je savais d'avance ce qu'ils allaient dire. Un peu comme Le Canard Enchaîné. À un moment donné, j'aime bien lire Le Canard Enchaîné, mais. Un mois, 2 mois, puis après il faut que je fasse une pause. Parce que sinon, c'est normal, hein, c'est une façon d'écrire des gens, tout ça, c'est toujours les mêmes, donc bon, on devine un peu, donc bon, mais comme la REP, hein, bon, c'est pareil.
Et sur Orléans, on a parlé des manifestations comme le jazz, donc ça c'est quand même intéressant.
Oui, c'est un bon, moi je trouve que ça est devenu un bon festival. Mmh. Voilà, après il faudrait demander aux musiciens, tout ça, comment ça se passe. Hein, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont enfin, ils quittent le sacro-saint Copacento à nouveau. Il y a plein de choses dans la ville, tout ça, donc, avec des scènes ouvertes, tout ça c'est bien, ça. Pas très bien derrière la cathédrale, ça. Mais ça devrait être toute l'année que j'en ai à faire. Mais bon, ça commence. L'erreur la ville, par exemple, c'est les fêtes de Loire. Bon, ils tiennent aux fêtes de Loire. Ça coûte 2 millions d'euros tous les 2 ans. Pour moi, c'est démesuré. Pour faire plaisir à 500 000 personnes d'un coup.
déjà tous les ans dans les fêtes de Jeanne d'Arc, qui coûtent pareil, 1 million d'euros, pour faire plaisir. Et là, je pourrais même pas dire, monsieur le maire, il a essayé de la réformer un petit peu les fêtes de Jeanne d'Arc.
Ah bon ?
Une petite réforme, se faire beaucoup critiquer. Parce que le cortège a été raccourci, et je sais pas quoi a été supprimé, je sais pas quoi. Alors c'est assez marrant que ce soit la sueur, parce que la tradition, tout ça.
Oui, ouais.
La sueur, il est marrant, hein, c'est que du coup, moi j'ai connu avant qu'il soit élu, donc avec un certain discours très gauche quand même, PS gauche, là, une fois élu, côté culture, il a fait l'inverse de ce qu'il nous avait dit. Et puis, côté fête de Jeanne d'Arc, il s'est mis, il est rentré en plein dedans. Peut-être parce que c'est un prof, alors il a adoré. Donc, je l'ai vu dans plusieurs cérémonies à l'époque où il était maire, où il partait sur l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est bon, ça va, quoi. On n'a pas besoin du leader socialiste pour raconter Jeanne d'Arc, cette sainte, et patati et patato, je veux dire.
Ouais, c'est un peu étonnant.
Ah ouais, non, mais bon. Et ça.
Et au niveau des. Donc là, on change du tout au tout, c'est par rapport au commerce de quartier dans votre quartier, les Venelles.
Ils ont disparu. Il reste une boulangerie, un bar tabac et une petite épicerie. Une petite épicerie arabe qui est ouverte 24 heures sur 24. Voilà.
Ouais. Donc oui, il n'y a plus grand-chose. Il faut aller dans le centre-ville pour... Enfin,
oui, après, il faut aller. Bon, ils ont ouvert une supérette là, à côté du Grand Théâtre, donc ça va, c'est pas très loin de chez nous.
Ah oui.
Mais quand on est arrivé, il y avait deux boulangeries, un boucher, un charcutier, une boucherie chevaline, deux épiceries.
Ouais. Bah oui, c'est comme partout, ça.
Ah oui,
disparaît.
Ah oui, oui, oui. Non, les maisons. Ouais, il y avait un bar en plus, il en reste 3 mètres 4. Il y en a un qui est fermé. Il en reste deux, dont un bar tabac. Et un troisième, c'est un bar de rencontre avec hôtesse.
Ah
lui qui est resté, pouf. Mais si on se projette en arrière, c'est des quartiers où il y avait des usines. Donc il y avait aussi des bars comme ça. Parce que là, il y en a deux. Coup sur coup, on se dit qu'est-ce que font ces deux bars dans cette rue. Mais il faut se dire, oui, il y a 30 ans, effectivement, il y avait 3-4 usines. Quand on est arrivé, elles étaient en train de fermer déjà. Donc il y avait beaucoup plus de monde, ça brassait beaucoup plus de monde dans le quartier. Ah oui.
Ah oui, il y a du changement dans tous les quartiers, les petits commerces.
Ah oui, oui. Puis on a vu les anciens disparaître, nous on était les jeunes. Maintenant, je ne suis pas rentré dans la case vieux, mais ça n'a pas tardé. Oh là, oh là là. Je compte, là, au fur et à mesure que les anciens ont disparu du quartier, là, on sent que nous, on monte, vu qu'on habite toujours là. Donc c'est intéressant, ça. On voit à nouveau, là, il y a les jeunes là, qui sont arrivés avec des petits gamins. Donc ça va rebouger encore. Ce qui a bouleversé le quartier, c'est l'arrivée des habitants d'origine étrangère. Parce que quand la ville a cassé les usines, ils ont fait des logements sociaux. Un pourcentage de logements sociaux. Et dans notre Venelle, il y a eu toute une affaire, parce qu'il y a des familles noires, il y a deux familles noires qui sont installées.
Mmh.
Et ça, au niveau des anciens de la rue, il y a eu un gros débat.
Ah oui.
Pas un débat. Ah oui, parce que les plus âgés qui avaient déjà 80 ans, il y en a un, il en est mort, on va dire.
Mmh.
Ah oui, ça fait une grosse dépression, pas contre les personnes qui habitaient là, mais... Il y en a un autre qui est décédé l'an dernier, là, 97 ans, là, on en avait pas mal discuté. Lui, il disait, il n'avait jamais vu de noir en vrai. Et tout d'un coup, il habitait Jargeau dans une ferme, il a pris sa retraite à Orléans, une petite Venelle. Après, il en a vu un peu d'Orléans, mais tout d'un coup, en face chez lui, une famille. Eh bien, il a eu du mal. Hein. Il a eu. Vraiment, il avait beaucoup de mal. Et en même temps, moi, ma fille est noire, vu que j'ai adopté. Et là, alors je lui posais la question, elle dit, c'est pas pareil, je la connais et tout. Bon. Mais les autres, c'était pas pareil encore, c'était pas évident. Hein. Et ça, c'est vraiment, puis bon, la route tourne, les anciens sont plus là.
Et les gens sont bien intégrés, moi je trouve que ça se passe très bien dans le quartier là-dessus. Mmh. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est qu'on a deux familles d'origine africaine complètement différentes. Une famille avec le super contact, une autre famille qui au début refuse total de dialoguer avec les blancs de la rue. Mmh. Mais vraiment. Hein. Et puis ça s'est fait. Ça s'est fait. Maintenant on parle et tout. Et c'est ma fille qui m'a expliqué ça, qui m'a dit, tu sais, parce que dans le quartier il y a pas mal d'Africains, elle m'a dit, les Africains aussi sont racistes. Il y en a qui n'aiment pas les Blancs, ils n'aiment pas les Blancs pour des tas de raisons, donc bon, voilà, il faut arriver à faire le respect des deux côtés, quoi, d'arriver, bon, que nous aussi, on se dit, c'est pas parce que, ils sont noirs, nous les Blancs, tout de suite, parce que je suis cool de gauche, qu'ils vont m'accepter. Ben oui, non, mais c'est ça qui est... Hein.
Mais justement, au niveau des langues parlées là, dans votre quartier, donc à part le français, il y a des langues étrangères qui sont
parlées. Non, français. Parlées, français, et puis les Africains, parce qu'en fait, il y en a pas mal. Ils ont monté un petit bar dans l'ancienne poissonnerie. Mmh. Il y a une famille africaine qui est arrivée il y a quelques années, et ils ont monté un petit resto africain. Mais ils ne vendent que les Africains.
Mmh.
Ils n'auraient pas l'idée d'y aller, non.
Comme rue de Bourgogne, là où il y a les petites épiceries africaines, il y a un resto qui s'est monté, là, puis c'est...
Ouais, et c'est des lieux de rencontre africains, Et c'est pas le même milieu, ça j'ai su, parce que bon, là, j'ai la chance d'avoir ma fille qui fait sous-marin, donc, qui m'a dit, elle a découvert ça à Strasbourg, parce qu'à Orléans, elle avait beaucoup de difficultés avec la communauté africaine, parce que c'est une communauté qui travaille, c'est pas une communauté étudiante, on va dire. Celle qui côtoyait dans le quartier, tout ça. Strasbourg, elle a rencontré les Africains à Telon. Ils sont là pour les études. Il y a une grosse communauté aussi. Et c'est là, petit à petit, effectivement, on s'est rendu compte aussi, c'est comme partout. Hein, les étudiants, les travailleurs, tout le monde n'a pas le même niveau d'études, tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, etc. etc. quoi. La grande diversité. Hein.
Pour revenir au commerce, là, la rumeur d'Orléans, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Dire deux mots sur cette fameuse rumeur?
Ça me fait rigoler, mais c'est parce que... rumeur d'Orléans, moi je ne l'ai pas connue parce que j'étais à Pithiviers, c'est avant 68 cette affaire-là. Mais je me souviens très bien, on en a parlé longtemps, même dans la famille... ma mère, elle avait expliqué ça, il y a des gens qui pouvaient disparaître dans les boutiques Orléans et tout ça. Mais bon, ça restait vu de loin. Après, j'en ai entendu parler à Orléans, il y a eu des articles, tout ça.
La rumeur, il y a même un ouvrage d'Edgar Morin.
Oui, il y a le bouquin d'Edgar Morin.
On en parle, les jeunes filles qui disparaissaient, les commerces de vêtements. Mais vous, oui.
Des commerces juifs. Pas n'importe quel commerce. Ah oui, c'est surtout ça. Ouais. Mon épouse, elle connaissait l'histoire, elle avait lu le bouquin avant même de venir à Orléans. C'était une référence, comme elle a fait sociaux et tout ça. Et. Ça, c'est des trucs. Orléans, ouais. On a quelques trucs comme ça connus. Moi, je préfère Orléans, l'épisode de Monseigneur Jean-Marie, ancien évêque d'Orléans, qui a une rue, qui, en pleine fête de Jeanne d'Arc, donc quand il y a eu la réception de. Ils vont à un moment dans la cathédrale, là, les militaires, les machins, tous les dignitaires, les politiques et tout. Et Jean-Marie, il a interdit aux militaires de rentrer avec les armes. Ça, ils en parlent un petit peu dans les quotidiens d'histoire sur Jeanne d'Arc Orléans et tout. Et ça, bon, ça m'a beaucoup marqué. À l'époque, j'étais jeune cato, parce que j'étais à l'école chez cato, que l'évêque d'Orléans, Jean-Marie Rouen, connaissait, parce que c'était quelqu'un de très très actif. Il a fait quelque chose d'aussi réel que d'interdire aux militaires de rentrer avec une arme dans l'église. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon. C'est un peu comme ma rencontre avec Jean-Pierre, que j'ai vu alors que j'étais gamin. Mais ça m'est resté tellement qu'après, j'ai même lu des articles de lui. Je suis même devenu objecteur de conscience. Tout ça, ça m'a emmené là. Comme des tas de copains de Pithiviers qui pas beaucoup, hein, souvent, mais sur Poitiers, sur Orléans, il y a quand même pas mal d'objecteurs de conscience, puisque c'était la base était à Orléans. Mmh. Et l'objecteur de conscience, avant l'arrivée de Mitterrand, c'était 2 ans de prison. Mmh. Et mon frère, qui lui avait décidé, il ne voulait pas être objecteur, il a dit, je fais l'armée, je m'en fous, je serai débarrassé, bon. Il a fait ici l'armée à Orléans, sauf que, alors attends, c'était en quelle année cette affaire ? Il est, c'était juste en 70 par là, 72 je pense. Il a signé avec des, il était planqué au Hussard à Orléans, là il s'occupait de la gym et tout, comme c'était un sportif et tout, bon, peinard. Sauf qu'il s'est trouvé avec des gens plus âgés que lui qui avaient été, comment on dit, qui avaient du sursis. Il y en avait un qui était médecin, puis d'autres, je ne sais plus quoi, architecte peut-être. Qui avait plus de bagages, et avec mon frère et un autre gars, ils ont rédigé l'appel des 100, demandant la liberté d'expression dans le cadre des casernes militaires, tout ça, d'avoir droit aux journaux et tout ça. Mmh. Et là, je l'ai vu concrètement, ouais, 74 ça devait être, ouais. Parce que j'étais encore projectionniste. Quand j'ai appris ça, mon frère m'a appelé, il m'a dit ça, j'ai acheté le, c'était dans l'eBay, c'était en première page avec les signataires. Le lendemain, mon frère est disparu. Parce que la police militaire a été les toper dans leur caserne. Mmh. Il s'est retrouvé à Mourmelon dans une forteresse. Il s'est tapé 1 mois de cachot. Et ils l'ont gardé 3 mois là-bas et ensuite ils l'ont collé dans les commandos, je sais pas quoi, là, en Lozère et tout ça. Voilà. Il est revenu, il n'a plus de cheveux, il a la boule à Z, il a perdu 15 kilos. Voilà. Donc moi, ça m'a renforcé dans l'idée, je serai objecteur.
Mmh. Oui, il aurait pu avoir un service militaire tranquille.
Oui, peinard, mais il ne pouvait, pouvait pas, il était trop... c'est genre grande gueule. Mmh. Enfin, tu ne peux pas s'empêcher de faire des vannes, un peu entre Coluche et Pierre Desproges. Hein. C'est un peu le genre... Mais il est élu maintenant, je me marre. Ah oui, à mon avis, il a autant de problèmes. Il est très relationnel, il a un bistrot, hein. Attention.
Ouais. Et donc vous avez fait de la prison alors ?
Non. Parce qu'après, non, non. C'était... Moi, j'ai refusé de me présenter, ils sont venus 3 fois me chercher. Ils sont venus chez mes parents. Mon père a dit, je ne sais pas où il a disparu. Donc de ce côté-là, j'étais tranquille. Mmh. Et puis en fait, c'est Annie que j'allais épouser après, qui à l'époque je connaissais comme ça, qui m'a dit, mais François, t'es un peu idiot, tu devrais te présenter, dire que t'es objecteur, puis c'est tout. Puis tu vas bien voir ce qui se passe, tu vas pas te planquer comme ça. Effectivement, parce que je me serais fait arrêter, refus de présentation et tout. Alors là, les 2 ans, je les avais tout de suite. Je me suis présenté aux 3 jours à Blois, et là, ils m'ont réformé. Donc, pas de bol pour moi, enfin, dans mon esprit... objecteur de conscience, c'est que moi j'avais fait ma demande d'objection de conscience et arrivé là, alors que j'avais eu ma demande d'accepter, il me réforme, donc j'ai même pas le droit d'être objecteur. P4, c'est-à-dire pour raison psychiatrique.
Ah bon?
Ah oui, je l'aurais fait la totale. Hein. C'était bien. Ouais, c'était un bon souvenir. Je m'en souviens très bien parce que je suis parti là-bas, j'avais lu depuis 8 jours, je lisais que les poèmes contre-révolutionnaires de Julian Beck, qui est un grand auteur de théâtre new-yorkais, je crois, qui a écrit beaucoup de choses très très engagées, un peu à la Michael Moore, mais plus, comment je dirais, plus années 60, quoi. Avec moins de nuances, on va dire, puis moins d'humour. Donc c'était boum boum boum, donc j'étais bien dans mon truc là-dedans, je ne ferai pas l'armée, etc. Mais j'ai pas triché au test, rien, j'ai bien montré qui j'étais, tout ça. Mais j'étais franc, par contre, après, ça l'a fait, après je pose pas de questions. Hein. Mmh. J'étais réformé, c'était déjà bien.
Donc du coup, on n'a pas de service militaire.
Ouais, du coup, pas de service militaire, hein, tranquille.
Et j'ai une question sur la proximité entre Paris et Orléans. Donc pour vous, c'est sûrement intéressant parce que vous êtes monté à Paris quand vous étiez jeune, mais est-ce que c'est un avantage pour Orléans ou est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que ça n'a pas étouffé la ville du fait de la proximité avec Paris?
Moi, je dirais, alors, je vais répondre à l'envers. Au début, on habitait à Orléans. Je trouvais ça super pratique. On y allait deux fois la semaine. Mmh. On travaillait ici, on pouvait voir les copains à Orléans, faire des rencontres artistiques, etc. Ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, cette affaire. On circulait beaucoup. Puis petit à petit, plus on a développé ici, moins on était à Paris. Mmh. Et maintenant, j'y vais. On y était beaucoup parce qu'il y a de la famille là-bas, mais même pour raison professionnelle, non. Même y jouer, non. La dernière fois qu'on y a joué, c'était en 2004. On était invités, on a joué à la Villette. Bon. Mmh. Mais sinon, je suis pas dans l'optique d'aller, tout ça. Je pense que c'est bien, pour les jeunes Orléanais, c'est bien que Paris soit pas loin. Pour aller voir, etc. Parce qu'il y a, c'est qu'il y a un tas de trucs sur Paris. Après, je pense que ça a fait de l'ombre pendant longtemps. Oui, je pense. On était un peu tout seul à Orléans, parce que tout se barrait sur Paris. Pourquoi ? Parce qu'Orléans, il filait rien. Hein. Mmh. Aujourd'hui, à Orléans, rien que la maison Bourgogne, les Parisiens, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils essayent de faire le 104 laborieusement. Nous on le fait, ça marche, donc c'est peut-être moins ambitieux, moins cela, mais il se passe beaucoup de choses sur Orléans. C'est plus lisible, je dirais. Mmh. Beaucoup plus lisible. Mais je pense pas, moi je pense qu'il faut Orléans, oui, il y a une identité de toute façon. Une identité. C'est quand même une ville qui bouge doucement, c'est ça surtout le problème. Mmh. Mais du fait de. Vous voulez savoir pourquoi?
Ouais, je bien.
Pour moi, c'est la formation du politique. C'est-à-dire qu'on est dans un système en France démocratique très très bien, bon, mais il y a très peu d'élus qui sont formés à devenir élus. Et aujourd'hui, ça commence à poser problème. Mmh. Bon, je ne veux pas causer du gouvernement, mais ça arrive, on voit des élus du gouvernement, mais comme de notre ville, comme du conseil général, qui se retrouvent avec une charge politique et ils n'y connaissent rien du tout. Qu'on ne dise pas oui, mais ils ont un niveau d'études, ils ont un master, un machin. À un moment donné, ça suffit, la société est trop compliquée pour mettre des gens incompétents, parce qu'à ce moment-là, demain, j'enseigne l'anglais. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. On va dire, bah, j'ai l'équivalent, naninana, alors que non, c'est pas possible. C'est ça qu'il faut, c'est qu'on prend beaucoup de retard. Parce qu'un élu peut dire, ah, moi, j'aimerais bien faire tel truc, et puis. Donc on va faire des études, tout ça, c'est-à-dire on est encore avec des visions personnelles des élus. Alors que j'ai cru comprendre qu'il y a des pays qui ne sont pas des dictatures, comme dans les pays du nord de l'Europe, où bah, on décide, on essaye d'être un peu pragmatique, raisonnable, collégial, etc. On discute, on parle avec les gens, on essaie de voir ce qui est mieux pour tout le monde, et non pas la vision personnelle d'un gars, d'un pays du nord qui fait son coup, un terrain qui fait sa pyramide. C'est quand même, bon... On peut dire de Joe Stahl et de Tsepin, hein, je veux dire, ils ont fait aussi des trucs à leur image, donc il y a, moi, quelque part, ça me gêne. Et du fait qu'on se retrouve régionalement, au niveau de la ville, c'est pareil, il y a des élus très compétents, pas de problème. Il y a des élus qui sont sur des postes où ils n'y connaissent rien, donc le temps qu'ils se mettent au courant, petit à temps, la pendule tourne, et à chaque fois qu'on a des changements d'équipe, ça passe de gauche à droite ou de droite à gauche, on prend tout à zéro. Mais même quand c'est les mêmes qui sont réélus, on prend tout à zéro. Il y a rarement de continuité. On ne part pas en tramway, hein, comme ça. On le fait durer dans le temps, comme ça on s'ennuie pas, on a un sujet. Hein. Et le gros sujet, genre le tramway, à Orléans, hein, ça va gober tout le reste. Que déjà, ça prend la tête à beaucoup de gens. Ce qui fait que ça fait une très mauvaise relation aussi entre la majorité et l'opposition. Il y a un truc très intéressant à regarder, c'est le conseil municipal d'Orléans, à la télé, parce qu'on voit ça sur Internet. Ça, on apprend plein de choses. Ouais. Ah oui, parce que là, on voit les élus dans l'action. Est-ce qu'ils ont bien préparé leur dossier? Est-ce qu'ils comprennent de quoi ils parlent? Et pas que sur le sujet, moi c'est culture, hein. Bon, alors, culture ça m'intéresse, j'aime bien regarder, mais j'aime bien regarder des fois d'autres trucs. Je vois, tiens, voirie, tiens, qu'est-ce qu'ils font dans le quartier? Ils en parlent au conseil. Alors ça, c'est pour ça, c'est bien Internet. Et ça va changer aussi, je pense, ça va changer un peu la face des choses au niveau politique, je pense. Tout ce truc de l'image. Mmh. On voit bien, hein, le moindre ministre maintenant, comme la qui queen, parce que oui, oui, on se moque de lui, mais il faut arrêter. Guy Bedos, il a fait 10 fois pire. Tout ça, c'est les effets de manche. L'autre, il est tout content qu'on cause de lui, tout content qu'on le voit à la télé. c'est l'effet de l'image. Alors, comme je suis aussi comédien, même un petit comédien, mais je sais qu'est-ce que ça fait quand on est tout seul sur une scène avec 500 personnes qui vous applaudissent. Ça donne la pêche. Vous êtes sûr, vous êtes le meilleur, le plus beau, le plus grand, etc. Et ça, les hommes politiques, ils y sont confrontés, mais pas préparés. Ils font pas le conservatoire avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas appris, bon, à part dans certains partis, comme je sais que le Parti communiste, il y a une formation, comme dans les syndicats, il y a une formation. Moi, ça, j'ai appris ça dans le syndicat, que la formation, c'est très important. Non pas pour avoir la ligne, hein, mais pour savoir comment parler aux interlocuteurs, comment s'adresser à des, quand on va voir des gens en grève, comment on se débrouille de tout ça, la relation avec la hiérarchie, ne pas avoir peur du patron, du machin. Ah. Non. Ah, c'est Dominique.
Ouais, ma répétition a duré moins longtemps, on a été très efficace.
Ça va, ça marche tout.
Je ne veux pas du.
C'est bon, t'es sur la bande comme ça.
Hein?
T'es sur la bande.
Pour la postérité. Voilà.
Pour la postérité.
C'est pas grave. Donc on saura que c'est Dominique.
Oui, c'est Dominique.
Qui est revenu.
Chanteuse lyrique. Ah, Dominique est chanteuse lyrique, là. Administratrice et sur notre casquette, chanteuse lyrique.
D'accord. Donc elle fait les deux, la partie administration, puis aussi.
Et oui, elle a sa propre entreprise, elle joue dans des spectacles, des opérettes, des opéras. Ah ouais. Et elle a le prix de Paris et tout ça. C'est une... ouais, je chante Mozart et tout, ça casse les carreaux, hein, je veux dire, c'est du vrai, hein, soprano. Ouais.
D'accord. Mmh. C'est intéressant.
Ouais, c'est bien, mais justement, c'est bien aussi ça dans les équipes, de... les échanges. Moi. On s'égare un peu.
Oui, non, mais tout est intéressant. Puis là, on parlait de politique et de Paris, d'Orléans, mais entre Orléans et Tours, quelle est la ville qui représente le mieux la région centre, à votre avis? Parce que tous les étudiants disent toujours Orléans, ça bouge pas, Tours...
Ouais, mais les derniers, pendant longtemps, on disait Tours. Hein, on a pas mal bossé sur Tours. Je pense pendant longtemps, il y avait beaucoup plus de dynamisme sur Tours. Nous, on allait jouer là-bas, on est pas mal sortis, on a rencontré beaucoup de gens. Je trouve qu'Orléans, depuis 10 ans, là, ça a complètement basculé. Depuis le développement de la rue de Bourgogne, je parle pas de l'esthétique, parce que là-dessus, je suis assez partagé, moi. Et il y a le développement de la rue de Bourgogne, et puis jouer ici la maison... Il n'y a rien à envier maintenant, je pense qu'il se passe autant de choses qu'à Tours. Ce serait même, je dirais, quelque part, je me sens plus libre, je ne sais pas comment dire.
Ici,
par rapport à Tours. Mais ça, c'est moi, personnellement, peut-être parce que j'y vis. Hein, bon. Et moi, je me dis, on vit dans un endroit, il faut en profiter au maximum, parce que la ville, elle est aussi comme on l'a fait. Si on se plaint qu'il ne se passe jamais de fête, par exemple, ou jamais de concert, mais qu'on n'y va pas, quand il y en a un, bon, c'est pas la peine de se plaindre. Parce que beaucoup de gens disent « Orléans, il ne se passe rien », ils raisonnent années 80. Effectivement, années 80, sous Doufiag, il ne se passait rien. Orléans, c'est le désert de Gobi, quoi. Il y avait les concerts avant la place d'Arc, là, il y avait un grand terrain. C'était un terrain vague où tout le monde se garait. Et là, ils mettaient un chapiteau, il y avait les concerts. Il y avait des idées plus intéressantes qu'aujourd'hui, mais en même temps aujourd'hui ça rebouge. Là-dessus, le maire il n'est pas fermé là-dessus, c'est plutôt qu'il n'est pas toujours bien conseillé. Les histoires de grosses fêtes de Loire et tout, par exemple, pour y revenir, ça c'est un truc qui se développe dans toutes les villes au bord de Loire et dans toutes les villes de France. Les maires veulent avoir leur événementiel. Et lui dit. Il l'a dit au conseil municipal, oui, ça fait travailler des intermittents. Oui, mais pour moi, ça ne suffit pas. Ça fait travailler des intermittents qui montent des cabanes à bière. Le budget artistique sur les fêtes de Loire, il est riquiqui. Ça fait bosser très peu d'artistes. Ça pourrait être réfléchi autrement, qu'ils fassent leur grosse opération bateau, mais dire, par exemple, artistique, ça se prépare avec les artistes orléanais. Il y a ce qu'il faut, ça, Orléans. Ça veut pas dire on prend que les nuls, mais à nouveau, vu que là on va dans le crash en ce moment en culture, là c'est en train de se barrer dans tous les sens, on se retrouve avec des gens qui ne savent plus comment comment prendre ça en main, quoi, au niveau culturel. Pas si je suis clair là-dessus.
Ouais, ouais.
C'est... Donc c'est des grosses idées, ils disent oui, on fait ça, donc il y a l'image, et puis le reste, bah.
Ça va pointe des pieds.
Ah ouais, ouais, bah. À du métier. Bah, tu travailles plus là, tu t'en allais, non? Ah oui, oui.
Oui, 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 ça enregistre, ça enregistre.
Ah, c'est une étude.
Et j'ai des questions sur la langue. Donc, vous m'avez dit dans votre quartier, il n'y avait pas spécialement de langue étrangère parlée.
Non.
Mais alors,
les Africains entre eux, ouais. Ils parlent africain. Mm-hmm. Mais du dialecte, je pense.
Mais ici, à Orléans, est-ce qu'il y a une façon propre de parler?
Orléans même, non. Je dirais non.
Parce que les Britanniques, ils avaient fait cette enquête, mm-hmm. Ils avaient choisi Orléans, enfin le Val-de-Loire, en se disant justement c'est une région à peu près neutre pour l'accent, il n'y a pas d'accent,
oui,
il n'y a pas l'accent parigou, il n'y a pas l'accent du sud, donc il n'y a rien qui vous frappe au niveau.
Ouais, non, parce que par contre ça me frappait quand j'ai quitté Pithiviers pour aller à Paris, tout le monde me disait tiens, t'es un paysan, parce que j'avais l'accent bosseron. Et en plus, non seulement je l'avais, mais j'avais bossé en plus à la campagne. J'adorais ça, faire les moissons, tout ça. Et donc, je causais. Moi, j'ai le don d'empathie. Je prends l'accent de celui qui est en face. Hein. Si vous avez l'accent allemand, je prends l'accent allemand. Ça ne va pas me gêner. Hein. Ah oui, non, mais autant. Alors, je ne suis pas terrible en langue, mais je prends l'accent de la personne qui a la. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est au niveau de ma tête, ça. Et à Orléans, non, je trouve qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas cet accent qu'on retrouve, par exemple, dès qu'on va en Beauce, tout ça. Alors là, il y a des coins où vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Hein,
À ce point-là.
Ah ouais. Bah, maintenant, plus chez les vieux. Hein.
Ouais.
Et quand j'étais gamin, moi, j'avais appris des mots et tout pour pouvoir bosser à la campagne, parce qu'ils causions toujours un peu comme ça. Hein. C'est des mots un peu à l'ancienne, un peu de patois, tout comme ça, mais...
Et vous travaillez avec des jeunes au niveau du langage jeune, il y a des évolutions.
Oui, bah il y a les jeunes, tous ceux qu'on voit ici dans le bâtiment dans le cadre du travail et tout, ils parlent normalement. Ils ont le langage des quartiers quand ils sont dans les quartiers. Mmh. Ça pareil, ma fille m'a expliqué qu'elle peut faire les deux. Elle m'a dit si elle intervient par exemple dans un quartier, puisqu'elle a fait des démarches pour la fac, pour les lycéens où vont expliquer la fac ce que c'est, cela, ou des rencontres de jeunes dans les centres d'animation, elle parle comme moi, même mieux que moi, je veux dire. Mais elle peut se mettre à parler avec la langue du quartier. Mm. Mais elle prend ça de la même façon que faire de l'espagnol, ou de l'anglais, on parle comme ça, mais c'est vraiment un. Pour moi, c'est pas une langue, hein. C'est un truc. Comme j'étais gamin, les jeunes dans le quartier, ils parlaient, je sais pas quoi, javanais, machin. Mais moi, j'ai jamais rien compris là-dessus. Et les langues, je sais pas quoi, j'ai compris bien longtemps, grâce à mon travail, quand on a commencé à tourner à l'étranger. Et c'est là où vraiment j'ai compris concrètement à quoi ça pouvait servir de parler anglais. Avant, alors que j'avais voyagé, hein, je m'étais baladé, tout ça, mais je disais bon qu'aux Anglais, oui, mais bon, je ne voyais pas bien. Et j'ai compris qu'en fait, quand j'étais au collège, alors, ma prof d'anglais, c'est marrant, je l'ai revue au parc Pasteur, avec ses petits-enfants et tout, super sympa, et elle m'aimait bien, alors heureusement, super contact toujours avec les profs d'anglais, parce qu'elle, je m'en souviens, celui du lycée, je m'en souviens très bien, alors j'étais la tâche totale en anglais, parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait, vu que dans mon entourage, personne ne parlait autre chose que le français. Et en plus, à la maison, mon grand-père il parlait polonais. Mon père avait dit, on ne parle pas polonais, on parle français. Intégration, c'est parler français. Et lui, il répondait à mon grand-père en français tout le temps. Mon père, j'ai dû entendre deux fois dire une phrase en polonais. Vraiment, là-dessus, il avait fait un tong. Et... Une fois, il a essayé de m'expliquer, quand j'étais ado, il m'a dit, tu vois, lui, il était électromécanicien. Il m'a dit, j'ai jamais pu exercer électromécanicien. Et je dis pourquoi ? Il me dit je suis polonais. C'est pas un boulot pour les Polonais. Le Polonais, il est ouvrier. Donc il a dû tout reprendre. Et il est devenu préparateur en biscuits. Ce qui était bien.
Et donc là, dans les dernières questions qui arrivent, c'est sur le, c'est un peu des questions culinaires. Est-ce qu'il y a des plats traditionnels, donc soit Pithiviers, soit Orléans, dans la région centre, est-ce qu'il y a des recettes?
Il y a le gâteau de Pithiviers. C'est un Pithiviers, c'est top.
Pithiviers, c'est vraiment bon.
Quand je passe là-bas, alors que là j'ai plus de famille, vu que la maman est décédée, je m'arrête de m'acheter mon Pithiviers pour en ramener aux copains. Ouais, dans le Pithiviers, ça c'est génial. Après, nous, dans le coin, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Non, non, moi j'aime bien faire la cuisine. J'aime bien faire la cuisine, mais j'ai pas de. Je vois pas de truc dans le coin. Sur la Sologne, ils sont orientés gibier et tout ça. Là, je suis pas fan, moi. Je suis pas fan de viande, de toute façon.
Il y a le Cotignac Orléans.
Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est les bonbons à mamie là, qui existent depuis. Et vous en avez déjà mangé? Vous avez essayé?
Non, j'ai pas mangé. J'en ai un, je l'ai regardé, mais j'ai pas osé.
Oui, moi je me risque pas. Hein.
C'est de la pâte de couille pourtant.
Oui, mais bon, je crois que c'est dur, c'est dur. Ah. Je crois que c'est ça le truc, c'est dur. Non, spécialité, bah, ils ont essayé le coup des macarons. Bon, ça permet d'acheter des macarons qui sont bons. J'aime bien les macarons. Après, ils disent, oui, c'est la spécialité de ça. Bon, c'est leur truc.
Ben là, j'ai une dernière question. C'est une question qui est un peu originale. C'est une question qu'on a héritée des Anglais là, qui voulaient savoir comment on faisait une omelette. Parce que pour eux, ils voulaient avoir une recette pour qu'ils puissent dire à leurs étudiants, leurs élèves, voilà, une recette française typique. Donc on a demandé quelque chose de pas compliqué. Et donc nous, on l'a reprise dans notre questionnaire pour faire un peu une comparaison. Donc si, puisque vous cuisinez, si je vous demande comment est-ce que vous faites une omelette?
Tout simple, avec des œufs, et c'est tout. Ni crème fraîche, ni machin, ni huile, ni tout ça.
Donc nature.
Je pas des œufs, nature, un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu d'eau.
Donc vous faites quoi alors pour faire votre omelette? Qu'est-ce que vous faites pour les opérations que vous faites pour...
Je prends des œufs et puis je les casse dans une gamelle, je les bats avec une fourchette, des fois deux, parce qu'il y a un copain qui une fois m'a fait une grosse démonstration que c'était mieux que deux fourchettes. Comme ça je pense à lui. Voilà. J'ai toujours à la main, boum, jusqu'à temps que ça mousse bien. Puis après, poêle chaude, un petit peu de beurre, de margarine, je joue ça là-dessus, crac, en 5 minutes c'est fait.
Donc juste nature comme ça. D'accord. Bon, merci. Du coup, c'est la fin de l'entretien
de rien.
sur cette recette de l'omelette.
C'est marrant ça.